9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 20 de votre club de l'été. Et comme tous les matins depuis 4 semaines, notre credo demeure la curiosité, l'envie de découvrir d'autres cultures, d'autres lieux en France et quelques astuces culinaires. Un club où il fait bon vivre et où les sourires sont notre premier signe de reconnaissance. 2 heures en direct donc, de 9h à 11h, au cours desquelles vous devriez entendre aujourd'hui les mots ninja, piano, embouteillage, tomate et huître. Ça peut paraître un peu foufou comme ça, mais une fois qu'on met tout ça dans l'ordre, ça donne en principe une émission en principe, hein, une émission construite et animée par deux experts de luxe, Lise Pressac pour le tourisme et la culture et Olivier Pouls pour la gastronomie. Salut les amis.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour.
Hello, c'est notre dernier ensemble et le club se poursuit.
Je suis un peu partagé.
Oui, moi aussi, Olivier.
Je suis un peu mitigé aujourd'hui.
C'est vrai.
Ouais, entre les vacances et puis après la tristesse,
et la tristesse
de vous
abandonner.
Ouais, ouais.
Bah oui, on
mais
a
oui,
passé
parce
un
qu'on laisse,
mois.
On laisse Lise évidemment qui va assurer ce club de l'été jusqu'au 23 août. Exactement. Vous serez entouré par deux Sophie, deux super Sophie, Lise Pressac.
Exactement.
Lise, la région de cœur de notre invité est le bassin d'Arcachon. Aucune raison de se priver d'une visite au bord de l'océan.
Exactement, et on va aller visiter un musée, le musée de l'huître.
Très bien.
Et Olivier, j'ai pas vu ça.
L'invité n'a pas le droit de parler tant que je lui donne pas la parole.
Pardon,
en fait.
Excusez-moi, j'ai rien dit donc du coup, pardon.
Veuillez vous taire, Christophe Beaugrand.
Il n'a rien dit, je suis là incognito.
Olivier, dégustation sucrée ce matin.
Bah oui, quand on est au bord du bassin d'Arcachon, qu'est-ce qu'on voit?
La dune du Pilat.
Bah on la mange aussi, figurez-vous.
C'est vrai?
Oui, on va manger la dune. Et puis après, je vous réserve une petite surprise en fin d'émission pour la recette du jour.
Et voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Puis vous nous dévoilerez votre dernier vrai-faux affirmation du jour. Il faut carafer les vins rouges. Alors vrai ou faux, vous allez nous dire tout ça?
Et que les vins rouges ou les autres? Bonne question.
Nous avons 2 heures ensemble. Profitons-en et partageons notre plaisir avec les auditeurs. Vous êtes les bienvenus dans ce club de l'été. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Et nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité et animateur et journaliste, télé-réalité ou émission sur une chaîne info, il sait tout faire sans jamais perdre ou presque sans sourire. Cher invité, quelques sons qui vous racontent, enfin presque là aussi.
Aigle Maya.
Alors Beaugrand, pour commencer, c'est très simple, ça s'écrit comme les adjectifs. Et croyez-moi, c'est pas facile à porter tous les jours. Hein. Non, on voit bien que c'est pas vous qui vous faisiez appeler moche petit quand vous étiez à l'école.
On est à Vegas et je suis avec ton amoureux. Félicitations pour le mariage. Je vous souhaite une longue vie et puis je te le renvoie très très vite.
Sauf si finalement je te quitte pour partir avec Céline parce que j'hésite. Hein.
Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués?
De l'amour, à chaque instant et chaque jour. De l'amour, sans limite et sans retour. De l'amour, celui qu'on peut vivre en grand jour. De l'amour.
Mais oui, de l'amour. Bonjour Christophe Beaugrand.
Bonjour à tous, bonjour. Charmante et baroque.
Mais ça commence très très bien. Merci d'être avec nous ce matin, Christophe Beaugrand.
Merci
nous sommes
de m'inviter,
ravis
vraiment
de vous accueillir. Christophe, ce soir, vous présenterez avec Denis Brogniart et Iris Mittener la finale de la saison 4 de Ninja Warrior sur TF1.
Ouais.
C'est dès 21h. Et demain matin, vous serez en direct sur LCI pour Ça va faire du bruit. De 10h à midi, 2h d'infos, de débats. C'est le samedi et le dimanche jusqu'au 25 août.
Exactement.
Ouais. On va évoquer votre actualité, bien évidemment. Mais auparavant, quels sont vous venez d'entendre dans vos petites oreilles?
Alors, je viens d'entendre l'un de mes premiers passages télé dans une émission de Jacques Martin.
Oui.
C'était un concours d'animateur télé.
Sous vos applaudissements.
Sous vos applaudissements,
c'était le nom
exactement
de l'émission. Hein. Je ne dis pas sous vos applaudissements à Christophe
Oui, parce
Beaugrand.
Que sinon ça ne marche pas parce que personne n'applaudit. Hein. Vous avez remarqué que vous n'avez aucune autorité sur ce studio.
C'était en 1997.
Exactement, ouais. J'avais 20 ans.
Ouais. Un costume trop grand.
Un costume, à l'époque, on s'habillait peut-être un peu plus comme ça. Non, je crois que j'étais déjà ringard à l'époque, donc c'était une catastrophe. Oui, un vrai problème de look, mais c'était un concours d'animateur télé. J'étais jeune étudiant en journalisme et j'avais participé. Et j'ai eu la chance incroyable de rencontrer M. Jacques Martin, qui est une personne fabuleuse, vraiment. Il pouvait avoir un côté un peu impressionnant, peut-être un peu, pas forcément... très sympathique comme ça, mais en fait c'était exactement l'inverse. Il était adorable, il m'a donné beaucoup de conseils et j'ai participé à cette émission. Ça a duré toute la saison, j'ai été jusqu'en finale, mais j'ai malheureusement perdu face à une jeune femme qui a gagné un concours d'animatrice sur un contrat d'animatrice sur France 2 et qui était obligée de faire un procès pour la voir. Elle...
C'est vrai, elle n'a jamais réussi à avoir son poste.
Mais je crois qu'elle a été chroniqueuse dans une émission d'été qui a eu 3 numéros et après elle a disparu. Là, pour...
Vous voyez, comme quoi vous avez bien fait de ne pas gagner finalement.
Et Willy Rovelli aussi.
Et Willy Rovelli, je vous recommande des images, vous les retrouvez sur Internet. C'est assez drôle de voir Willy Rovelli aussi dans cette émission. On a commencé avec Maya l'Abeille parce que vous êtes quand même l'animateur qui savait par cœur le plus grand nombre de chansons, je ne sais pas comment les qualifier. Bah, de générique télé déjà.
Non, mais j'ai une collection de daubes à la maison. voilà, on peut dire, hein, de daubes musicales.
N'ayons pas peur des mots.
Parce que je suis hyper amnésique de la daube. Je ne me rappelle que des choses qui ne servent à rien.
Donc mais, Maya l'Abeille.
Notamment Maya l'Abeille. Et crois-moi, ça ne sert à rien. Mais voilà, pour le coup.
Alors, on a également entendu le générique, l'habillage sonore d'une chaîne à laquelle vous avez participé qui s'appelle Pink TV. Qui s'appelait Pink TV ? C'était en 2004.
Elle existe encore, mais il n'y a plus que des films pornographiques, donc je n'y travaille plus du coup. Ah, parce que je n'étais pas...
Non mais c'était une formidable aventure quand même,
pas
Pink
dans la
TV.
Cible. Oui, c'était une aventure extraordinaire. C'était la première chaîne gay du PAF. Et l'idée, c'était de proposer un talk show quotidien que j'ai co-animé pendant 2 saisons avec une camarade qui bosse sur Arte maintenant, qui s'appelle Marie Laborie. Et c'était un talk show multiculturel où on parlait à la fois de société, mais aussi de culture. On a reçu des invités exceptionnels. J'ai eu une chance incroyable de présenter cette émission pendant 2 saisons. J'étais tout jeune, j'avais 27 ans, vous imaginez. Ouais. J'étais un bébé.
Et puis on a entendu la voix de Céline Dion.
Céline.
Parce que vous êtes allé l'interviewer à Vegas.
Oui, il y a quelques mois, j'étais à Las Vegas, effectivement, pour l'une des dernières dates de Céline Dion, de sa fameuse résidence à Las Vegas. Et j'ai eu la chance, effectivement... de la voir particulièrement en forme.
Ouais, c'était on a mis Céline Dion parce que c'était le côté un peu paillette et un peu people comme vous l'aimez aussi.
Oui, parce que
on
c'est
vu dans 50 Minutes Inside, par
exemple. C'est les interviews
que
je fais pour 50 Minutes Inside. Ouais. Je fais des interviews un peu événementielles régulièrement dans l'année. J'avais fait Elton John aussi. Là, j'ai fait Céline Dion.
C'est pas mal quand même. Hein,
j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités assez extraordinaires. Et ça, tous les jours, je me pince. Je me dis quand même que j'ai la chance de faire un métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin, qu'en plus je suis payé pour ça et que je rencontre des gens extraordinaires. Et j'ai la chance d'être là aujourd'hui avec vous.
Oui, c'est surtout ça.
Pour vous dire à quel point. Magnifique. Parce que Céline Dion à côté d'Olivier Pouls, c'est du pipi de chat.
Non, là, il faut quand même que je précise. Je vais préciser pour les gens qui nous écoutent.
Il faut que vous les expliquiez,
Olivier
Pouls.
Christophe, on se connaît depuis très longtemps. Parce qu'on a démarré ensemble à LCI dans les années 80. Toi, tu as dû arriver 96.
En 99, je suis arrivé. Voilà, ça fait
petite précision pour les auditeurs. Olivier Pouls n'a pas fait que manger dans sa vie et boire. Il a aussi travaillé.
Mais alors, excusez-moi, mais moi qui travaillais avec lui, il mangeait déjà beaucoup. Sur son lieu de travail.
Mais il a réussi à en faire son métier, et ça c'est fort.
Non,
mais
je me pince tous les matins.
C'était génial, il était rédacteur en chef le matin, très tôt le matin, et il arrivait tout le temps avec des saucissons, du vin, etc. On ne travaillait pas, on mangeait à chaque fois, c'était formidable.
C'est un peu pareil.
À LCI, il y avait du gras de saucisson sur les ordinateurs, mais c'était super.
On va en parler de LCI, où vous officiez depuis quelques années. On a entendu également le générique de Secret Story, une des émissions que vous avez animées pour TF1 et NT1. Et puis De l'amour, c'était une chanson qui est magnifique, qui porte un message d'amour et d'apaisement pour lutter contre l'homophobie, et vous apparaissez dans le clip de cette chanson.
Exactement, c'est une chanson dont les ventes étaient en faveur d'une association qui s'appelle Urgence Homophobie, en fait, qui aide des personnes qui sont dans leur pays poursuivis pour leur homosexualité, qui peuvent parfois être menacés de mort et donc qui sont recueillis en France. Et c'est une association qui aide ces gens à pouvoir s'insérer, à trouver des logements. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel. C'est très bien que vous m'en parliez ce matin parce que les caisses sont vides en ce moment, donc ils ont vraiment besoin d'aide. Je vous donnerai le lien.
Et on le mettra sur Twitter.
L'association s'appelle Urgence Homophobie. Donc vous tapez sur Internet Urgence Homophobie, vous retrouverez. N'hésitez pas. Parfois, c'est pas forcément besoin d'aide d'argent, mais ça peut être aussi de l'aide matérielle. Donner des livres, des couvertures,
du
bénévolat, et parfois même aussi être famille d'accueil pour accueillir ces gens qui ont été chassés de chez eux pour ces raisons-là.
On va reparler évidemment de vos engagements, on a 2 heures pour
avec
le faire
plaisir.
Christophe, nous avons jusqu'à 11 heures pour évoquer votre parcours et revenir sur votre actualité, et comme parfois le monde de l'audiovisuel ressemble à un western, je vous propose d'écouter MC Solar qui chante Nouveau Western sur Europe 1.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc. Oncle Sam me doute, Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part sous, des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le Kulik et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte, c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or.
MC Solar sur Europe 1 et ce titre de 1993 avec un sample de Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg. Dans un instant, nous retrouvons notre invité, Christophe Beaugrand.
Europe 1, le club de l'été.
Il est 9h23 et 5 secondes, Olivier Pouls. Nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous.
Il aura fallu attendre 3 semaines.
Il faut expliquer à Christophe qu'en fait, depuis un mois, elle essaye de donner l'heure, mais qu'elle s'en mêle à chaque fois les pinceaux.
Non, mais là, c'est bien,
il est 23h09.
Les gens ne vont pas croire que c'est en direct. Voilà, alors nous sommes en direct.
Exactement. Notre invité du jour est l'animateur et journaliste Christophe Beaugrand. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lison, on relaie vos messages et vos questions également. Christophe Beaugrand, ce soir, finale de Ninja Warrior, comme on disait. Alors, pour faire simple, c'est Interville en version XXL. Et pour sportifs de haut niveau. Je schématise.
C'est un peu ça. Non, mais c'est un peu ça. C'est une sorte d'Interville survitaminé 2.0. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et oui, il faut vraiment être très, très fort pour gagner. Je ne sais pas si ce soir, on va avoir un grand gagnant qui va pouvoir remporter les 100 000 euros.
Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, il a fallu attendre 6 saisons pour avoir le premier gagnant. La difficulté, le niveau de difficulté est assez incroyable. Nous, en 3 ans, on n'avait pas encore eu de gagnant. Je peux vous dire ce soir qu'il va y avoir de très, très grosses surprises. Je ne peux Non, mais je ne peux pas vous dire s'il y a un gagnant ou pas. Mais en tout cas, à la fin, il faut gravir la Tour des Héros qui fait 23 mètres. Et vous allez voir qu'il peut y avoir des surprises.
Voilà. Bon, ça sera ce soir et demain matin, 2 heures d'infos sur LCI. Est-ce que vous n'êtes pas parfois tenté de faire un parcours des combattants à vos invités politiques, vous voyez, une sorte de combo entre les deux rendez-vous?
Écoutez, j'ai eu Daniel Simonet de la France Insoumise il y a 15 jours, j'ai eu Claude Guéant la semaine dernière.
Vous ne les voyez pas en t-shirt en train de faire un Ninja Warrior?
J'ai oublié de proposer ça à Claude Guéant, mais maintenant vous me donnez une idée. Je verrai pour demain matin, je sais pas encore qui sera notre invité, peut-être Alexis Corbière, je verrai. En t-shirt, il sera très bien. Non, mais on essaye de parler d'actu, mais aussi d'en parler de manière un peu plus décalé parce que c'est l'été et puis après c'est ma personnalité aussi.
Oui.
Mais on a quand même, on parle aussi très sérieusement de l'actualité mais avec un regard un petit peu décalé.
Olivier Pouls.
À ma conscience, vous êtes le seul dans le PAF à arriver à faire dans la même saison une animation de Ninja Warrior, une émission d'info sur LCI et voir de temps en temps de la télé-réalité. Dans ce métier, on est toujours mis dans les cases et où il en est très 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 difficile,
c'est vrai.
Très difficile d'en sortir. Comment vous y arrivez ?
Alors là, je ne peux pas vous dire. Je crois que je suis extrêmement chanceux. J'ai toujours été très bosseur, donc je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que ça se sait que je travaille beaucoup mes émissions, que je prépare tout. Donc j'ai toujours apporté beaucoup de journalisme entre guillemets dans mon animation, c'est-à-dire que je lis pas un prompteur que j'ai pas écrit.
Et réciproquement donc.
Et effectivement, réciproquement, j'écris toujours mes textes. J'essaye de ne pas utiliser de prompteur quand c'est pas obligatoire parce que je trouve que ça fige vachement. Et l'idée, c'est de moi, j'ai la chance d'aimer beaucoup de choses. Et je bosse sur un groupe, et là j'en remercie encore TF1 tous les jours, qui me laisse m'exprimer sur différentes chaînes de ce groupe.
Dans différents exercices
et pour des publics différents. Effectivement, un public plutôt jeune pour la télé-réalité sur TFX, un public féru d'infos pour LCI, le grand public pour Ninja Warrior ou pour 50 Minutes Inside, c'est toute la famille. J'ai de la chance de faire de la radio aussi, j'en ai fait beaucoup à Europe 1, où là, on touche aussi un public très large. J'en fais sur une radio rouge maintenant qui est en face. Mais c'est vrai que L'intérêt, c'est de pouvoir parler à tous les publics. Et je pense que quand on le fait avec sincérité, avec passion, ça peut passer, j'en suis la preuve. Mais je suis d'accord, il y a assez peu d'exemples de cas similaires.
Il y a Samuel Etienne avec Question pour un champion et la matinale de France.
Mais je pense que Samuel
Etienne... beaucoup de critiques quand il a accepté Question pour un champion.
Mais Samuel Etienne, je pense que c'est la même chose. Je pense que les gens le respectent parce que c'est moi, je le connais un peu, mais c'est un vrai travailleur qui fait les choses sérieusement avec beaucoup de cœur. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Quand le public voit que vous ne mentez pas, je pense que ça se sent. Nikos aussi, pour le coup, est un très bon exemple. Et je pense qu'on sent une vraie sincérité et une vraie envie de partager, que ce soit de manière divertissante ou pour parler d'information. Mais je pense que quand on veut partager, c'est le principal.
Et qu'est-ce qui vous fait accepter tel ou tel projet ? Qu'est-ce que c'est le déclencheur, en fait ? Alors, qui fait que vous dites oui ?
Le chèque.
Alors, non, ça peut rentrer en ligne de compte. Tout dépend si j'ai des impôts à payer. Non, mais vraiment, c'est m'amuser. J'ai la chance de faire un métier, vous savez, parce qu'on fait le même et on se réveille le matin. Alors, c'est parfois difficile, notamment vos horaires la saison dernière, je le sais.
Non, mais on prend plaisir. Enfin, mais il faut pas.
Voilà. On a le réveil qui sonne.
On a beaucoup de chance.
Pour aller faire quelque chose qu'on rêvait de faire quand on était gamin et on n'a pas l'impression de travailler. Donc, moi, c'est ça, c'est le plaisir, le numéro un, vraiment. Le
moteur.
Ouais, le moteur numéro un, c'est avant tout le plaisir. Quand j'ai eu moins de plaisir quelque part, je suis parti à Canal, par exemple. Ça se passait pas bien, j'étais pas très heureux, je suis parti. Parce qu'il faut pas continuer à faire les choses justement pour l'argent, parce qu'on s'étiole. Et là, du coup, on ne peut plus partager avec les gens.
Alors, c'était la suite de ma question. Quelle a été l'expérience professionnelle la plus épanouissante jusqu'à présent et la plus difficile ?
La plus épanouissante, je sais pas. J'ai l'impression que là, je suis dans ma période la plus épanouissante parce que je peux à la fois faire vraiment de l'information et de la pure info et en même temps du pur divertissement. Donc, je me rends compte que ce grand écart-là, je sais pas si j'aurai l'occasion longtemps, de pouvoir le faire. Donc, j'en profite vraiment. Et après, comme tout le monde, il peut y avoir des moments un peu plus difficiles dans une carrière. J'ai été un peu moins bien à un moment donné à Canal+ et j'ai décidé de partir. Mais après, vraiment, je suis chanceux. J'ai toujours travaillé. On m'a toujours fait des belles propositions. Donc, voilà, je touche du bois pour que ça continue. C'est du bois, ça, ou c'est
pas
du...
vraiment.
C'est
pas vraiment.
C'est
ça fonctionne.
Vous avez pas de bois ici, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il y a du bois ?
La tête d'Olivier Pouls, ça ira bien. Christophe Beaugrand, on en parlait il y a quelques secondes. Depuis plusieurs mois, vous vous engagez aussi auprès d'associations.
Ouais,
alors, je pensais surtout
même, ouais.
Depuis plusieurs années, pardon, et notamment l'association LGBT Le Refuge, qui offre un hébergement provisoire à des jeunes qui sont victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui la LGBT-phobie. Vous prenez régulièrement la parole pour dénoncer des actes homophobes. Vous arrivez à rester positif et vous dire que la société est plus tolérante qu'auparavant, ou au contraire, vous êtes inquiet face à la répétition d'actes inacceptables ?
Alors, je suis un indécrottable optimiste, effectivement. Donc, je pense qu'on va dans le bon sens, que depuis que le mariage pour tous est passé, malgré tout, dans les familles, dans les têtes, dans les comportements, il y a plus d'ouverture. Mais le problème, c'est qu'il y a également beaucoup plus de visibilité. Et le corollaire de la visibilité, c'est parfois des réactions agressives, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que ce qu'on voit, la haine qu'on voit sur les réseaux sociaux est... heureusement pas représentative de la population française. Et d'ailleurs, les sondages le montrent à chaque fois. Il y a de plus en plus d'ouverture sur ces couples différents, avec des grands guillemets, qui ne le sont pas, en fait. Et donc, c'est ces messages-là que j'essaye de faire passer. Mais jamais, au grand jamais, TF1, par exemple, m'a conseillé de ne pas communiquer là-dessus. Au contraire, on est très engagé sur ces questions-là aussi. Ça fait partie des messages importants, je pense, à faire passer pour le vivre ensemble. L'un des slogans de TF1, c'est « On se retrouve sur TF1 ». L'idée, c'est que tout le monde se retrouve.
Tous, ouais.
Et du coup, moi, ça correspond aussi à mes combats. Et je pense que c'est important de faire passer ces messages-là. Donc, la haine existe, oui, mais n'y prenons pas trop d'importance. Il y a aussi beaucoup d'amour sur les réseaux, voilà.
On va en reparler dans un instant. Christophe Beaugrand, vous allez nous faire partager votre coup de cœur pour un très beau film. À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend
avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été en présence de notre invité, l'animateur et journaliste Christophe Beaugrand. Christophe, vous avez craqué cette année pour un très beau film de Jeanne Henry avec Gilles Lelouch, Sandrine Kimberlin et Élodie Boucher,
Jeanne
notamment.
Jeanne Herry, ouais.
Pardon, qu'est-ce que je dis ?
Jeanne Herry, vous avez dit Henry, mais c'est Jeanne
Herry. Ah, Jeanne Herry, ben oui,
mais
pardon,
pas,
excusez-moi.
Ça n'a aucune importance,
j'ai mal écrit sur ma feuille.
C'est la fille de Julien Clerc et Miu
Mais
Miu.
Oui, bien sûr. L'histoire de Théo, c'est un petit garçon qui est remis à sa naissance aux services sociaux pour une adoption. Alors, il y a d'un côté ceux qui doivent s'occuper de ce bébé et de l'autre une future maman qui attend depuis des années de pouvoir recueillir un enfant. Je propose un extrait.
Bonjour Théo, je m'appelle Karine, je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargé de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça, pour toi. On t'accueille comme tu es. Si ta maman maintient son choix, des personnes vont prendre une décision pour toi.
Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans cette histoire, Christophe Beaugrand?
En fait, ce film, je l'avais loupé. J'avais envie de le voir et puis je l'avais raté. Les circonstances ont fait que je n'avais pas eu le temps de le voir. Et je me suis retrouvé il n'y a pas longtemps dans un avion. Et j'ai regardé ce film sur un tout petit écran. C'est pour vous dire à quel point, sur un grand écran, je pense que ça aurait été... J'ai été en larmes, quasi pas du début à la fin, mais j'étais tout seul. C'était un voyage que je faisais tout seul, un voyage professionnel. Il y avait une personne à côté de moi qui me regardait. Parce que je n'arrivais
plus...
Qui
vous passait les mouchoirs.
Non, elle me regardait d'un air un petit peu pathétique quand même. Genre, parce que c'était très difficile. Et quand, vous savez, quand vous voulez pleurer, que vous vous empêchez de pleurer, ça fait encore plus de bruit.
Oui, puis on est encore plus ridicule.
Ça fait genre... c'était ridicule, mais non, c'est un film extraordinaire sur le parcours d'adoption. C'est quelque chose qui me touche particulièrement car j'y ai été dans mes proches. J'ai des gens qui ont eu recours à l'adoption et pour qui ça a été très compliqué, que ça a été des démarches très complexes, très longues. Et je trouve que ce film-là raconte de l'intérieur, de manière extrêmement sensible, extrêmement fine, ce parcours-là. Le travail aussi... incroyable des services sociaux,
oui, tout à fait.
Notamment l'accompagnement de cette maman qui ne peut pas garder son bébé, qui décide de l'abandonner, comment elle est aidée, accompagnée, on lui demande si elle est sûre de son choix, sans jamais lui mettre une pression sur les épaules en la culpabilisant d'abandonner son enfant. C'est un film vraiment absolument magnifique et les acteurs, voilà, on a Sandrine Kiberlain, Élodie Bouchet,
qui est formidable,
hein. Gilles Lelouch, le film est vraiment, c'est une leçon de vie et... c'est un film magnifique. J'avais lu une interview de la réalisatrice qui disait à quel point ça avait été compliqué, parce que c'est compliqué de tourner avec des bébés.
Oui.
Il est adorable, le bébé. Oui. Ils avaient deux bébés puisqu'ils grandissent très vite, donc forcément il faut un nouveau-né. Et ils avaient quand même pas mal galéré avec les enfants, mais c'est un film magnifique, vraiment. Je le conseille à tout le monde.
Eh bien, on vous le conseille aussi. C'est aussi notre coup de cœur du Club de l'été, Christophe Beaugrand. Christophe, l'équipe du Club de l'été, elle a également des coups de cœur autres, les auditeurs aussi. Et Fred Goatil est à la fois dans l'équipe et à la fois auditeur. Il est surtout directeur de la rédaction de Jazz Magazine et il possède une passion communicative dès qu'il parle de musique notamment. Bonjour Frédéric Goatil.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
On est très content de vous revoir dans ce studio. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui de deux pianistes de jazz, Michel Petrucciani et Laurent Coulondre. Alors Michel Petrucciani, c'est un nom a priori qui résonne plutôt bien aux oreilles du plus grand nombre et notamment de nos auditeurs. En revanche, Laurent Coulondre, un peu moins.
Bah, forcément, puisque la belle aventure de Laurent Coulondre ne fait que commencer, tandis que celle de Michel Petrucciani s'est hélas arrêtée brutalement le 6 janvier 1999. Voilà pourquoi, cette année,
on célèbre les
20 ans de sa disparition. Et on la célèbre en musique. Tiens, comme je ne viens jamais l'émerveiller, donc du moins j'essaie, je vous ai apporté un petit biscuit, histoire de se remettre sa musique dans les oreilles. Un petit biscuit, une petite Madeleine de Proust de 1989, Looking Up, l'un des tubes de Michel Petrucciani.
Comment vous voulez pas qu'on craque ?
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre studio est très lumineux.
Ouais.
Mais d'un seul coup, il y a eu beaucoup plus de lumière.
Mais cette mélodie, elle est absolument lumineuse. C'est exactement le mot.
Et croyez-moi, il en a composé beaucoup, des mélodies comme ça. Parce que chez Michel Petrucciani, ce qui comptait plus que tout, c'était le côté mélodique des choses. Il fallait que le jazz, ça chante. Mais attention, malgré son handicap, il souffrait d'ostéogenèse imparfaite.
La
maladie des os de verre. C'était un véritable virtuose, un dévoreur de claviers. Tout, vraiment tout, sous ses doigts n'était que jubilation. Tiens, la preuve à propos de jubilation, écoutez cette main gauche qui danse et cette main droite qui chante. La main gauche. Et la main droite.
C'est dingue, hein ?
Les deux hémisphères sont réunis.
Mais oui. Mais c'est ça qui me passionne et qui me fascine chez Frédéric Goatil, c'est qu'il vous apprend à écouter la musique autrement aussi. C'est-à-dire que si on ne vous dit pas écoute la main gauche, écoute la main droite, vous ne réalisez pas
la virtuosité.
Mais bien sûr, la virtuosité du pianiste.
Ça se voit,
non, mais c'est vrai. Mais Frédéric, vous me disiez hors antenne que c'est ce disque que les parents de Laurent Coulondre lui ont offert quand ils ont appris la mort de Michel Petrucciani.
Exactement. Et imaginez un peu, Laurent Coulondre n'avait que 10 ans. Il jouait déjà du piano. Alors, il hésitait entre la batterie, le piano et le basket. Tony Parker.
Il a bien fait choisir le piano.
Il a plutôt bien fait, sauf qu'il n'est pas très, très grand. Je dis ça pour le chambrer un petit peu, parce que je sais qu'il nous écoute. Alors, voilà donc 20 ans plus tard. Pour honorer à sa manière la mémoire de son premier héros, donc, il vient d'enregistrer un disque que Eva montre à l'antenne. Il vient d'enregistrer donc Michel on my mind, Michel dans mon esprit en quelque sorte, a tribute to Michel Petrucciani, un hommage à Michel Petrucciani, un disque absolument magnifique qui ne sortira que fin août. Va falloir patienter. Hein. Voilà. Il sortira
moi,
en vinyle.
Garde celui
mais
que j'ai
évidemment, en vinyle, je vous en ai apporté un petit excellent exemplaire en exclusivité.
Mais je suis trop contente.
C'est pour ça qu'Eva vous écoute. Hein, bah, je
sens, c'est pour ça qu'elle vous
je sens qu'Eva va le garder. Hein. Ouais, je vais le repartir avec.
Mais... J'espère surtout que vous avez choisi un petit extrait pour nos auditeurs, surtout.
Ah bah, à votre avis, tiens. Alors, ouais, mais avant de l'écouter, je voudrais juste quand même donner une petite info importante. C'est que jeudi prochain, le 8 août, à Jazz in Marciac, sous le grand chapiteau, aura lieu une soirée hommage à Michel Petrucciani avec Laurent Coulondre, évidemment, Jackie Terrasson et Franck Avitabile au piano, Géraldine Laurent et Giolovano au saxophone,
c'est pas mal, hein, ouais.
Et oui, R.L. Besson à la trompette et deux grands batteurs, Lenny White et Aldo Romano, joué un rôle essentiel dans le début de carrière de Michel Petrucciani. Et je ne serais pas étonné que, comme dans son nouveau disque, Laurent Coulondre joue ce morceau de Michel Petrucciani qui s'appelle « Little Peace in C ». Laurent Coulondre, ça ne rigole pas aussi.
Ah non, ça rigole pas. Hein. Merci beaucoup.
J'ai une question de profane très rapidement. Est-ce qu'on entend vraiment, est-ce qu'il se réapproprie totalement le répertoire de Michel Petrucciani ? Est-ce que c'est réinterprété de manière... On entend la différence ?
Non seulement il se le réapproprie, mais il le réinvente à sa manière, mais en respectant l'aspect mélodique des choses, mais en le renjouant comme en 2019, avec lui aussi une forme de gibulation tout à fait singulière, qui n'appartient qu'à lui, et avec deux musiciens exceptionnels, Jerry Brumière à la contrebasse et André Ceccarelli, un niçois.
Désolé.
Le régional de l'État.
Mais le régional de l'État, mais grand monsieur de la batterie. Merci beaucoup Frédéric Goati, votre vie elle est jalonnée des coups de cœur que nous retrouvons dans les pages de Jazz Magazine que j'ai entre les mains. Un spécialité 69, année fantastique, vous m'étonnez. Voilà, je le montre à la caméra pour ceux qui nous regardent sur Europe1.fr.
Merci.
Merci beaucoup Frédéric Goati. Dans un instant, on continue de parcourir la liste de nos envies avec nos coups de cœur écran. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Eva Rock.
Deux heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes loustiques préférés, Alice Pressac et Olivier Poul. C'est ça le club de l'été.
Loustiques.
Et oui,
avec,
c'est mignon, loustiques.
Avec un invité de marque, évidemment, à la personne de Christophe Bougrand ce matin, animateur et journaliste ou journaliste et animateur, parce que ça marche dans les deux sens.
Oui, j'ai deux hémisphères, voilà. Comme Michel Petrucciani.
J'espère. Christophe, vous rêviez de télé enfant ou vous rêviez d'être dans l'écran, vous rêviez d'être journaliste ? Qu'est-ce que vous...
Alors quand j'étais gamin,
vous
effectivement,
vous
moi je me souviens très très bien d'avoir toujours eu envie de faire de la télé, de la radio. Depuis tout gamin, quand j'étais petit, quand j'étais en maternelle, j'ai habité à Nancy, nous avons été invités à l'émission La Mal à Malice.
Mais de... oui, sur France 3 Lorraine.
France 3 Lorraine Champagne-Ardenne. Et du coup, c'est la première fois que je visitais les locaux, les coulisses d'une télé. Il y avait, je me rappelle de la carte météo à l'époque, puisque je suis très âgé, c'était avec des aimants. Hein,
c'était mais, pas oui. Ah, mais c'était génial. Alors, les aimants se cassaient la gueule.
Mais oui, on voyait les nuages et les soleils qui collaient avec les aimants. J'ai vu les caméras qui, à l'époque, étaient gigantesques. Et j'ai dit, je veux faire ça. J'avais 5 ans. Je trouvais ça extraordinaire.
Voilà. Alors, je ne sais pas si elle en rêvait, mais elle l'a fait. Et joliment en plus, la journaliste Alexandra Alévèque propose sur France 5 le mercredi des nouveaux épisodes de sa série documentaire Drôle de ville pour une rencontre. Mercredi prochain, par exemple, départ pour Manille, la capitale des Philippines, qui souffre de surpopulation. Alors, résultat, eh bien, on se loge où on peut.
Vous travaillez ici, mais où est-ce que vous vivez ?
Juste en face, ici.
Ici ? Mais c'est une sépulture. Vous me montrez ?
Là, c'est ma petite épicerie.
Ah, tu m'as fait une sacrée surprise, Rudy. Hein. Une épicerie dans un mausolée.
Oui. Et là, je vous présente mon père.
Votre papa est là.
Oui. Et il y a aussi mon frère, ma grand-mère, mes oncles et mon fils.
Bonjour Alexandra Alévèque.
Oh mon Dieu.
Bonjour Eva.
Il y a tout le monde qui a explosé de rire dans ce studio. À entendre votre surprise, mais qui est la nôtre aussi.
Ah oui.
D'être dans ce cimetière où les gens vivent. On va en reparler, mais merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. On avait déjà passé une émission délicieuse avec vous l'an dernier. Vous revenez avec la suite de cette série documentaire et c'est toujours aussi savoureux. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce cimetière pas comme les autres ?
J'ai ressenti d'abord de la surprise parce que j'en avais évidemment entendu parler. On prépare un peu notre affaire avant de partir. Mais se retrouver effectivement dans un cimetière, c'est un très grand cimetière en plus. Je crois que c'est le plus gros de la ville. Et de voir, en fait, on avance petit à petit dans ce cimetière. Il y a d'abord les tombes un peu luxueuses de personnages politiques, etc. Et puis plus on avance, plus on voit des enfants qui font du vélo, qui jouent au basket. Donc on commence à se dire, c'est bizarre, il n'y a pas ça en France. Et puis petit à petit, on voit des femmes faire leur lessive. J'ai rencontré Elisabeth qui faisait cuire des brochettes. Et puis effectivement, dans le mausolée d'en face, elle m'a présenté donc la tombe de son père, sur laquelle était posé le téléviseur. Et puis elle m'a fait visiter sa maison, qui est un mausolée. Donc il y a des pièces.
Et donc il y a une épicerie à l'intérieur, alors.
Il y a une épicerie.
En même temps, il fait frais, c'est bien pour les produits.
Alors, il fait très frais. Alors, tout à fait. Dans les mausolées, voilà. Il fait très frais. Il y a des milliers de gens qui vivent là, parce qu'à Manille, il n'y a pas assez de place.
Mais Alexandra, vous êtes aussi restée 15 jours dans une famille qui vit dans un des bidonvilles de la ville. Ils ont facilement accepté l'idée de vous recevoir dans un espace qui est super petit. Ils ont à peu près combien 20 mètres carrés pour vivre à 6.
Non, il y a beaucoup moins que ça. Il y a à peu près 12 mètres carrés dans la maison, deux étages. Ouais. Ils sont déjà très nombreux. Alors, très bizarrement, cette famille-là a dit oui très vite, parce que les Philippins sont des gens très accueillants. Ils ne regardent pas le nombre de mètres carrés qu'ils ont pour vous accueillir.
Mais oui, et ils vous laissent leur lit d'ailleurs.
Ils vous invitent. Ouais. Ils m'ont laissé un des plus grands lits de la maison. Et ce qui était d'ailleurs un peu gênant, parce qu'il est arrivé que je me réveille certains matins avec, il y avait de toute façon à mes pieds, au moins deux personnes qui dormaient au sol chaque jour. Et les soirées où on avait invité les cousins, les tontons, les tatas, j'en avais cinq ou six à mes pieds.
Vous étiez contente de rentrer à Paris, j'imagine, quand on
Alors, je ne vous cache pas, chère Eva, que Manille est une ville très compliquée. C'est très difficile. Parce que quand on dit la ville la plus dense comme ça, ça parle pas beaucoup. Il y a deux fois plus de monde qu'à Paris. Donc, pour les Parisiens, les gens qui viennent en tant que touristes, on se rend compte qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de monde. Et surtout, il n'y a pas les capacités d'hébergement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'immeubles. En fait, beaucoup de gens sont venus des campagnes parce que les Philippines sont un pays très pauvre. Et c'est comme si le gouvernement, les autorités avaient dormi pendant 30 ans et venaient de se réveiller en se disant, mais mon Dieu, mais il y a trop de monde dans notre ville. Où est-ce qu'on les met? En fait, ils se sont installés sans vous demander votre avis. Ils se sont installés dans les rues.
Non, c'est une ville très compliquée. La ville ne peut pas s'étendre comme la plupart des mégalopoles.
Alors, elle peut s'étendre, mais déjà, elle est limitée par la mer d'un côté. Si on essaye... Alors, les autorités, aujourd'hui, essayent de déplacer ces populations qui vivent dans des bidonvilles, dans des conditions d'hygiène et des conditions sanitaires que c'est pas la peine de définir. Mais ils veulent revenir en ville. Parce que le problème, c'est que l'argent, il est là.
Et oui. Alexandra...
Donc, c'est des populations très pauvres.
Alexandra, ce documentaire, on le verra mercredi prochain sur France 5 à 20h55. Mais votre actualité, c'est aussi la parution de votre premier roman intitulé « Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent ». C'est aux éditions Sable Polaire. J'ai peur d'en dire trop. Est-ce que vous voulez bien faire le pitch, vous, en 30 secondes?
Aïe.
Ouais, c'est trop dur, en fait.
Merci beaucoup, Eva.
Merci. Je suis désolée.
C'est donc mon premier roman. C'est un roman assez court qui est autobiographique. Je crois que ce n'est pas la peine de se voiler la face.
Voilà, c'était ma question d'après. Vous avez répondu.
Voilà. Oui, tout à fait. Non, c'est une histoire de... C'est un roman sur l'absurdité de la vie et c'est une histoire de résilience.
Voilà, une histoire de famille aussi. On est d'accord. Hein. Évidemment, je peux le dire. Je vais le dire, Alexandra, puisque je vous l'ai écrit par SMS. Hein. J'ai beaucoup pleuré, du début jusqu'à la fin. Mais c'est un très, très beau roman. Mais j'ai ri parce que je vous entendais, j'entendais votre voix. Mais c'est très, très émouvant. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs qui vont se retrouver dans ce roman qui s'appelle Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. Et c'est au Sable Polaire et on vous le recommande vraiment. Merci infiniment d'avoir été en direct sur Europe 1
ce
matin.
Merci à vous. Bonnes vacances.
Merci, Alexandra.
C'est la fin, hein.
Merci
c'est
beaucoup.
La
ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. À très bientôt. Merci.
Au revoir.
Christophe Beaugrand, est-ce que vous aimez traîner sur YouTube ?
Ah oui, j'ai pas énormément de temps, mais j'y vais quand même, parce que je suis totalement connecté, je suis drogué à cette petite chose-là, le téléphone.
Comme nous tous.
Oui, ça m'arrive, ouais.
Alors depuis plusieurs années, il y a beaucoup de youtubeurs qui font des choses extrêmement intéressantes, qui ont des chaînes extrêmement intéressantes, et il y a un garçon qui sévit de façon...
Il y a aussi des trucs très cons, hein.
Oui.
Surtout des trucs très cons, mais lui, non.
Mais lui, non. Alors, il est très intelligent, et sa chaîne s'appelle « Et tout le monde s'en fout ». Bonjour, Axel Latuada.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va et vous ?
Mais très bien, merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1 avec Fabrice.
Avec plaisir.
Avec Fabrice et Marc de Bonny, vous avez créé une des chaînes YouTube les plus originales, les plus créatives et les plus intelligentes. On va faire une petite pause et je vous propose d'en reparler dans quelques instants. On va faire une pause musicale avec You Say de Lauren Daigle et c'est sur Europe 1. A tout de suite.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Remind me once again just who I am, because I need to know.
Avant de retrouver Axel qui est toujours en lien avec nous de la chaîne YouTube et Tout le monde s'en fout, c'était Lauren Daigle sur Europe 1 avec You Say.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Il est 9h51 sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invité, l'animateur Christophe Beaugrand. Christophe, on était en ligne et on est toujours en ligne avec Axel de la chaîne YouTube et Tout le monde s'en fout. Axel, on disait, alors ça va de la prostate à la notion de limite en passant par le concept de bienveillance. Vos vidéos, elles évoquent à la fois des sujets d'actualité, des réflexions philosophiques et c'est très réussi. Et puis, il y a un mois de ça, Axel, vous avez posté cette vidéo, on va écouter un extrait.
Faut vraiment que je vous montre un truc.
Mon spectacle.
Parce que vu qu'apparemment une série sur internet et un livre, ça suffit pas pour qu'on arrête de s'en foutre,
j'ai décidé de venir vous le dire en direct avec ma bouche sur une scène.
Histoire d'être sûr que vous arrêtiez de faire semblant de m'écouter.
Axel, c'est quoi cette histoire de spectacle ?
Bah, c'est la suite de cette aventure de dingue qui est Tout le monde s'en fout depuis 3 ans, c'est-à-dire que... on a commencé dans une cave avec mon pote à faire un truc pour nous faire plaisir et on se retrouve 3 ans après avec une proposition de monter sur scène quoi pour moi qui n'avais pas prévu d'être comédien dans ma vie, ce qui est quand même assez drôle.
Oui.
Et voilà, il y a maintenant presque un an, je crois un an et demi, une boîte de prod est venue nous dire voilà, on aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait de mettre ça sur scène? Et puis bah comme d'habitude, on a dit oui sans réfléchir.
Mais est-ce que ça fait peur justement de se dire est-ce qu'il y aura autant de gens qui se déplacent pour aller voir que de gens qui cliquent? Parce que c'est pas la même démarche, il faut payer en plus.
Eh ben, oui, tout à fait. Après, pour l'instant, les chiffres sont plutôt encourageants. On a déjà des dates qui sont complètes, alors qu'on a à peine fait de communication dessus. Donc, non, la chance qu'on a, c'est qu'on a une communauté vraiment qui déchire, quoi. Les gens.
Des vrais fidèles.
On le voit en convention. Ouais, on le voit en convention quand on se déplace. Les gens sont top, quoi.
Oui, puis après, le passage dans le club de l'été, c'est rempli pour toute la
saison.
Voilà, on est là pour ça.
Mais oui. Axel, si j'en crois à l'affiche, vous promettez un spectacle pédago déjanté, fun et philosophique. J'espère qu'il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise. Hein.
Bah, on a essayé. On s'est dit, OK, encore un nouveau média. Parce que pareil, YouTube, quand on s'est mis, on n'y connaissait rien. Là, la scène, moi, j'avais écrit une pièce il y a longtemps, mais voilà, ce n'était pas du tout notre truc principal. Et donc, on s'est dit, comment retranscrire tout cet univers sur scène. Et on a fait comme d'hab, c'est-à-dire qu'on est parti de ce qu'on avait, de ce personnage. Et tout le monde s'en fout, c'est une fiction, donc c'est l'histoire d'un YouTuber. Et comme pour le livre, on s'est dit, OK, pourquoi est-ce que ce personnage écrirait un livre?
On a perdu Axel.
Ah bah voilà, ça y est, les places sont
tout vendues.
Tout a été vendu depuis un mois.
Alors sérieusement, ils vont partir en tournée dans toute la France dès le mois de septembre, Nantes, Lille, Rouen, et à partir du 10 octobre, ça sera tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h30 sur la scène de la Comédie des Boulevards à Paris. On va remercier Axel, on en reparlera évidemment sur cette antenne parce que d'abord la chaîne est très très bien et puis j'espère qu'Axel pourra venir nous voir à la rentrée pour rediscuter à la fois de la chaîne et de ce spectacle. On les retrouve sur la chaîne YouTube. Tout le monde s'en fout. Christophe, de quoi, Olivier?
Personne ne s'en fout.
Christophe Beaugrand, dans un instant, mais j'espère qu'il va rentrer dans ce studio, notre humoriste Ben H, s'il veut bien. Parce que je le vois traîner un peu dans les couloirs. Il se dit, tiens, est-ce que je viens pas?
Il arrive en courant,
c'est formidable. Il y a quand même... Mais qu'est-ce que vous étiez tranquille en train de nous regarder, en fait? Vous étiez un peu au pestacle, en fait, comme on dit, pour les enfants.
Il est trop tôt pour moi.
Il est trop tôt pour vous. Comment
bonjour,
ça va,
bonjour,
Ben
bonjour.
H, hein?
Ça va bien, et vous?
Je vous présente Christophe Beaugrand. Ben H qui a pour mission de nous faire voyager cet été avec ses cartes postales mythomanes. Et qu'est-ce que vous allez encore nous raconter comme bêtise aujourd'hui?
Eh bien, ce matin, c'est un peu particulier, Eva. Point de grand voyage qui fait rêver sur les origines de notre invité. Et dommage, me direz-vous, avec Christophe Beaugrand, ce matin, on serait parti à Massy dans le 91. Voyage
vous
continue.
Vous
je suis né dans le
spécial dédicace.
Ça aurait pu être hyper exotique, hein. On aurait pu parler des fameux cocotiers de Massy, ces légendaires plages à perte de vue. Christophe Beaugrand, arrêtez-moi si je dis n'importe quoi, mais rien de plus beau à Massy que de voir le soleil se coucher sur l'océan.
Sur le corail.
C'est ça. Bref, mais non, ce matin on n'ira pas à Massy, je suis désolé.
Alors on va où alors?
Eh ben on va nulle part, Eva, on reste là dans ce studio et on profite.
Mais on profite de quoi en fait?
Mais on profite de vous, Eva.
Oh mon Dieu.
De votre présence, tant qu'il en est encore temps. Car dans un peu plus d'une heure, chers auditeurs, Eva Rock, la douce voix de notre été, celle qui était devenue au fil des semaines, à l'instar de Ricoré, une véritable amie du petit déjeuner. Oui, c'est la gorge nouée que j'apprends qu'Eva Rock va nous quitter.
Non, je prends... Non,
faut arrêter cette musique, ouais. Ben.
Et puis en fait, je prends juste quelques vacances, hein, c'est pas... Voilà.
Un ange parti trop tôt, titrera Jean-Marc Morandini. Plus rien ne sera jamais plus comme avant dans le club de l'été. Oui, je vous le dis, le cœur en miettes ce matin pour moi. C'est de nombreux souvenirs qui défilent dans ma tête. Mon Dieu, à partir de lundi, mais qui va me donner la sélection télé? Qui?
Ouais, ok. Alors, Ben H, en fait, ça fait un mois que l'émission elle a commencé, d'accord? Et puis, dès lundi, c'est l'Espressac qui prend la relève du club de l'été.
Oui, bah, ce sera une joie, évidemment. Évidemment. Laissez-moi simplement le week-end, quoi. Juste le temps que je me fasse mon deuil. Si vous me cherchez par hasard, samedi et dimanche, je serai parti reprendre goût à la vie du côté de Massy.
Très bien, je vous invite.
Allez, merci de m'avoir laissé dire n'importe quoi pendant un mois et bonnes vacances. Là.
Merci beaucoup Ben H, je vous quitte pour le reste de l'été, mais je vais vous écouter Ben H, vous allez être très sage et très gentil avec l'Espressac pendant ce mois d'août.
Et voilà. Très bien entouré.
Sinon je vous fais la peau à la rentrée, on vous retrouve aux côtés d'Anne Roumanoff à la rentrée.
Avec grand plaisir.
Et est-ce qu'il n'y a pas un projet de film pour vous, est-ce qui expliquerait notamment cette coupe de cheveux improbable que vous avez?
On doit parler de ça, oui, un petit rôle.
Un petit rôle,
un petit rôle de vendeur Naturalia, donc je fais pousser les cheveux.
D'accord, c'est pour Spielberg, c'est quoi?
C'est pour Anne Roumanoff.
D'accord, c'est dans le film, le prochain film d'Anne Roumanoff, en famille, c'est ça. Tous en famille. Merci beaucoup Ben H, c'était un plaisir de vous avoir tout au long de ces 4 semaines. Christophe Beaugrand, on va quitter Paris pour le bassin d'Arcachon. Pourquoi vous avez choisi cette destination, le bassin d'Arcachon?
Eh bien parce que au-delà d'être né un peu par hasard à Massy dans le 91, je n'ai rien contre le 91, j'y ai habité très longtemps, j'adore ce ce département. Mais mes origines sont dans le sud-ouest. Ma famille est du côté de Bordeaux. Et on avait une grand-mère qui avait une maison sur le bassin d'Arcachon.
Donc toutes les vacances familiales.
Toutes les vacances, tout Pâques, les grandes vacances, on était là-bas. Et notamment, mon papa avait un voilier. Donc on allait se balader, un petit voilier, hein, mais on allait se balader au banc d'Arguin, l'île aux oiseaux, etc. Voilà, c'est des souvenirs. L'odeur du varech,
ah, vous voyez, alors, ça, vous c'est formidable. Coupé, justement, petit exercice pour vous. Cette région, une odeur, ce serait quoi?
Bah, l'odeur du varech.
D'accord. Voilà. Et un son?
Les algues. Un son, le bruit de la mer qui tape sur la coque, comme ça, quand tu avances, et qu'il n'y a pas le bruit du moteur, parce que tu avances juste avec les voiles, là, ça, c'est extraordinaire.
On serait dans un mauvais téléfilm.
Ça vous excite un petit peu, là. Si, venez sur mon bateau, vous allez voir. Vous entendez le bruit de l'eau contre la coque?
Un son.
Fait chaud, hein.
Vous m'avez dit.
Je viens de vous le dire, oui, mais vous êtes complètement ivre-morte.
Un goût, non. Au goût du vin que j'aimerais boire, mais que je ne boirai pas. Ne riez pas, Christophe Beaugrand. Un goût de cette région, ce serait quoi? Non, vous allez dire une horreur.
Non, pas du tout. Bon. Pas du tout. Non, mais je ne vais pas vous dire le goût de la moule, parce que vous allez dire, mais je suis désolé, mais j'ai passé mon enfance à ramasser des moules. Et mais... du coup, après, j'ai arrêté. Mais j'ai passé... Je vous demande pardon. J'ai passé mon enfance à ramasser des moules sur le bassin d'Arcachon.
Il est en larmes. Je sais pas pourquoi.
On a perdu Christophe.
Donc voilà.
Nous, on va bien.
Est-ce que vous faisiez des mouclades avec
ouais, c'est ma grand-mère qui s'en occupait. Elle faisait pas des mouclades, elle les faisait marinières, assez classiques. Mais oui, vous savez, quand on part avec le bateau, il y a les piquets, il y a les moules qui sont accrochés. Il y avait les huîtres et c'est les moules de bouchot. Voilà,
et
exactement.
Ben, je pense qu'on est prêt à partir en direction du sud-ouest. Je vous propose de faire une petite pause. À tout de suite sur Europe 1.
Ah oui, venez avec nous.
9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
C'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h. Une deuxième heure rythmée par des idées de sorties et de balades grâce à l'Espressac, des astuces culinaires et des recettes grâce à Olivier Pousse. Et on compte sur notre invité Christophe Beaugrand pour mettre du lien dans tout ça, avec sa bonne humeur.
Je lis, avec plaisir.
Et vous dansez sur le générique. Vous êtes capable même de refaire le générique. Vous avez chanté Europe 1, là. Je vous ai entendu le faire.
Europe 1.
Voilà. Ouais, n'hésitez pas à réagir sur Twitter si vous voulez encore entendre chanter Christophe Beaugrand.
Oui,
au contraire,
les gens
pas.
Adorent. Oui.
Voilà. L'Espressac, on part où exactement ce matin?
On va à Gujan-Mestras, on n'est pas très loin d'Arcachon en Gironde, donc pour visiter un musée.
Olivier, c'est un mets sucré que vous allez mettre à l'honneur aujourd'hui.
Oui, je vais vous proposer de déguster des dunes, chers amis.
Alors comme là, celle de la dune du Pilat.
Je sais ce que c'est délicieux.
Ah, vous savez ce que c'est, ne dites rien.
Ah, je ne dis pas, mais c'est très bon. C'est pas très bon pour la ligne, mais c'est très bon.
C'est pas grave.
Et puis tant qu'à manger, petite surprise pour la fin de l'émission. J'ai cuisiné hier soir pour vous. Charada.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Christophe Beaugrand, avant d'entamer un périple vers le bassin d'Arcachon, petit voyage dans le temps. Est-ce que vous êtes prêt?
Je suis prêt à tout.
Est-ce que vous savez, par exemple, quelle chanson tournait en boucle à la radio à l'été 77, l'année de votre naissance?
Oh là là, alors je ne sais pas laquelle c'était parce que j'étais trop petit là pour m'en souvenir, mais dites-moi.
D'après vous, ça.
C'est un slow ou pas?
Non, c'est pas un slow.
Ça bouge?
Ça bouge un peu,
moyen.
C'est ça. Écoutez.
On a tous dans le cœur une Rock Collection. Jupe que de cheval.
Vous la connaissez par cœur?
Du lycée.
Moi aussi. Allez,
bien,
là, ça, je peux la chanter avec vous, celle-là.
Laurent Voulzy.
Mais oui, je suis sûre que vous adorez les karaokés.
Mais évidemment.
Mais évidemment.
Alors, les gens me détestent en revanche dans les karaokés.
Mais pourquoi? Parce
que, je ne veux pas lâcher le micro.
Ah bon, oui, c'est ça. Vous êtes inscrit, il y a votre prénom sur toute la liste de toute la soirée.
C'est
en
ça,
fait.
Le mec relou. Non, vous savez, des fois, il y a des interdits de casino. Moi, je suis interdit de karaoké. Vous voyez, c'est pareil.
En 1992, vous faites vos premiers pas dans l'audiovisuel. Alors, pas sûr que vous soyez fan de ce qui passait à la radio à l'époque.
Ah si!
C'est vrai?
J'avais une copine qui était fan de Nirvana, elle me faisait écouter toute la journée. Et du coup, si Nirvana, c'est pas mal.
Eh oui.
J'ai une version de Jazzy chantée par Paul Anka qui est très bien aussi.
Ah, mais il y a beaucoup de tubes de Nirvana qui ont été repris en jazz. C'est étonnant que vous disiez ça parce que.
Il y a des trucs très bien.
Il y en a des trucs très, très, très bien.
C'était quand même pas mal.
C'était pas mal. Bon, et en 99, quand vous rejoignez LCI, où était déjà Olivier Pouls, d'après vous, quelle chanson tournait en boucle sur les radios pendant l'été, hein?
Je sais pas, ça devait être un tube dansant un peu crétin.
Exactement.
J'imagine. Il y a une Corée?
Vous pouvez la faire vous.
Oui.
Écoutez.
Oh, j'adore. A little bit of Erica by my side. J'adore.
Mais sincèrement, alors, d'abord, première question, il y a quoi dans votre playlist?
Ah, moi, ça dépend. C'est très très variable. Il peut y avoir des choses d'extrêmement bonne qualité et des énormes daubes.
D'accord.
Mais en même temps, moi, je ne vois pas ça comme des daubes. Là, je parle de ce que les gens pensent.
Ça me fait plaisir, de
toute
façon.
Voilà, moi, je peux écouter, par exemple, j'en sais rien, le dernier Aurel San et m'éclater sur Michel Thor, Emmène-moi danser ce soir.
C'est bien.
Voilà, et comme quoi tout est possible.
Donc, vous avez une capacité quand même à connaître par cœur des chansons, donc, comme vous le disiez, un peu différente. Est-ce que vous auriez aimé animer, par exemple, une séquence comme le Carpool Karaoke qu'a repris Camille Combal pour TF1,
oui, bah ça
qui est un karaoké dans une voiture avec une star.
Bah en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai longtemps fait mes interviews en voiture dans 50 minutes inside. J'avais une petite rubrique et avant que le Carpool Karaoke de James Corden, l'original sur la télé américaine, n'existe, nous on l'avait déjà fait. Moi, j'avais chanté avec John Legend. On a fait tout un trajet. On était tombé dans des embouteillages. Ça avait duré 50 minutes, donc je ne savais plus du tout quoi lui demander en interview. Et du coup, on avait chanté. Et c'était super. Donc oui, j'ai déjà un peu fait ça et c'est génial. C'est pour ça, c'est top ce que fait Camille, parce que se retrouver avec quelqu'un dans une voiture, il n'y a pas les caméramans, il n'y a que les petites caméras automatiques.
Donc on les oublie.
Et du coup, on est beaucoup plus naturel et on arrive à obtenir des invités plus de choses. Alors il y a moins d'interviews et c'est plus de la déconne avec ce que fait Camille. Moi, il y avait un peu plus d'interviews, mais quoi qu'il en soit, on a les artistes différemment. Donc ça, c'est une très belle porte d'entrée.
Il faut juste regarder la route.
Oui,
alors c'est vrai, ça c'est un détail. J'ai écrasé trois petites vieilles, donc c'est pour ça qu'on a arrêté. Mais bon. Mais sûr qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire. Il y a trop d'embouteillages dans Paris, je vous assure. Il y a deux ans, trois ans, je la faisais. Aujourd'hui, ce serait impossible. Je ne pourrais pas faire 4 mètres. C'est vraiment pas...
alors,
en trottinette, éventuellement.
Et présenter une émission musicale, mais en studio, pas dans une voiture, ça vous plairait?
Ah oui,
ça fait partie des choses que vous aimeriez?
Oui, ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Après, c'est vrai que vous savez, la grille de programmes de TF1 est déjà très, très, très remplie. Mais c'est clair que s'il y a une opportunité, ouais, j'adorerais pouvoir me frotter à l'exercice de l'émission de variété.
Alors, on va continuer à parler de culture. Une autre culture, ce sera avec Lise Pressac dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h13 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité, l'anima journaliste Christophe Beaugrand. Je dis ce que je veux.
L'anima journaliste.
Voilà. Christophe, si vous hésitez entre tel ou tel festival ou si vous ne savez pas quelle expo aller voir, par exemple, pas de panique parce que Lise, elle est toujours là.
Ah.
Et vous êtes d'humeur bretonne aujourd'hui,
oui.
Lise, puisque vous nous parlez du festival du Chant de Marin.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Il commence aujourd'hui, il dure jusqu'à dimanche à Paimpol, c'est dans les Côtes d'Armor, avec en ouverture aujourd'hui à 14h les Marins d'Iroise.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
J'ai l'impression que tu te fais engueuler là.
Quel fameux trois-mâts. Alors, on va te laisser emmerder là, non.
Alors si vous n'êtes pas branché chanson bretonne, je vous rassure, le festival est très ouvert, il est à l'image de ce peuple de voyageurs, donc il y a beaucoup de musique du monde. Vous pourrez aussi écouter le mystère des voix bulgares, Gilberto Gil, Flavia Coelho, Idir ou encore Femi Kuti.
Ah.
C'est bien fait, mais allez le voir, c'est extraordinaire.
Et vous pourrez également admirer les quelques 200 bateaux réunis à l'occasion dans le port de Paimpol. Le festival du Chant de Marin, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche.
Et alors, on va rester en Bretagne pour aller au festival interceltique de Lorient.
Ben oui,
évidemment.
On en parlait dans le journal de Sophie Tussaud. Et c'est à partir d'aujourd'hui à Lorient, dans le Morbihan. Chaque année, c'est le lieu de rendez-vous des nations celtes de façon générale, avec notamment dimanche Nolwenn Leroy. Mardi, il y aura Goran Bregovic avec l'Orchestre national de Bretagne. Et demain samedi, le groupe Soldat Louis qui vient fêter
génial.
Ses 30 ans de carrière.
Et de la guerre, nom de Dieu, un accordéon. Pour elle, c'est tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux.
Vous avez une mémoire incroyable, Christophe Beaugrand.
On
c'est la mémoire
mieux.
Des chansons que vous avez?
Oui, particulièrement. Beaucoup des chansons, ouais.
C'est incroyable.
Bon. On peut vous louer pour une soirée ou pas?
Je suis pas cher. Je peux faire plein de choses. Ça dépend de la quantité d'alcool qu'on me donne. Mais bien sûr, ça peut.
Avec modération.
Non, pour mettre l'ambiance.
Oui,
bien
oui.
sûr, avec modération, voilà. C'est ce que je voulais dire.
Bah, ils vous attendent au Festival Interceltique, Christophe, c'est à partir d'aujourd'hui.
Je sais pas si la modération sera là.
Voilà.
Mais
c'est jusqu'au 11 août avec évidemment en point d'orgue la grande parade, un défilé de plus de 3500 artistes en costume dans les rues de Lorient.
Je suis en train d'imaginer un karaoké Christophe Beaugrand, Olivier Pouls. Oh, parce qu'Olivier Pouls ne dit rien, mais c'est un pro du karaoké.
On va organiser ça là.
Je pense que ça pourrait être. Mais je chante très faux. Mais
ouais, voilà, ça pourrait faire. Bah, Olivier Pouls aussi. Hein.
Le principal, c'est d'y croire.
Évidemment.
C'est ça, en fait. J'y crois beaucoup.
Ouais. Voilà.
Allez, enfin, changement d'ambiance, on va écouter du jazz dans le Gers.
Et au célèbre festival Jazz in Marcia qui, cette année, propose une programmation comme chaque année, mais bon, absolument incroyable car elle dure pendant 3 semaines. Ce soir, le petit village de 1236 habitants vibrera au son de Mélodie Gardot.
Oh, c'est beau ça, Mélodie Gardot.
Oh,
au autre très beau moment en prévision, Angélique Kidjo qui présentera elle demain soir son sublime album Celia en hommage à Celia Cruz, la reine de la salsa cubaine.
Bah, je ne connais pas les paroles.
Oh bah presque, hein. Presque. Vous voyez. Non, c'est elle, formidable, Angie, qui joue vraiment. Si vous avez la chance de pouvoir aller voir ce concert, allez-y.
Allez-y, au programme également Manu Dibango et Soul Makossa Gang samedi après le concert d'Angélique Kidjo. Vous pourrez aussi écouter Gilberto Gil le lundi 5 et Eva, il y aura Roberto Fonseca le mardi 6. Jazz in Martiac, c'est jusqu'au 15 août à Martiac dans le Gers.
Christophe, est-ce que vous allez encore dans des festivals? Est-ce qu'il y en a un que vous aimez particulièrement? Ou c'est pas trop votre truc?
Non, alors j'y vais pas beaucoup dans les festivals, je ne vous le cache pas. J'écoute les disques, moi.
Bah non, mais c'est déjà beaucoup.
Moi, les concerts, moi, ça m'angoisse. Il y a trop de monde.
Ah, c'est le monde qui vous
stresse. Ça me
stresse,
fait un peu peur. Hein, ouais. Bah, ça dépend. Je vais parfois à des concerts, mais assez rarement. Et les festivals, c'est trop le bordel. Moi, ça m'affole un petit peu.
Et alors, est-ce que vous faites des expos quand, alors, en dehors de votre boulot, parce qu'effectivement, votre travail vous implique que vous alliez voir des expositions, voir des films, etc. Mais est-ce que vous avez du temps pour aller voir ce que vous avez envie de découvrir?
Je ne vous cache pas que parfois, pas toujours assez. C'est vrai.
On dit tout ça, vous inquiétez pas.
Mais non, mais là, par exemple, j'avais de la famille qui était présente il y a quelques jours, là, et je les ai amenés à la Tour Eiffel. C'est couillon. Je n'étais jamais monté au dernier étage.
Bah oui, mais et comme du beaucoup coup, de Parisiens.
C'est toujours comme ça, il faut que les gens viennent.
J'ai fait 20 ans, enfin même plus, depuis 35 ans.
Vous avez fait la queue longtemps, quand même. C'est long, hein.
Ouais, ah oui, il ne faut pas être.
Alors, faut être pressé.
Ouais. Pour descendre, il faut prendre les escaliers, et là, ça va beaucoup plus vite. Mais pour monter les escaliers, il faut du courage.
Ça vous a fait une petite émotion d'aller sur la Tour Eiffel ou pas?
Ah oui, mais c'était extraordinaire. Je pensais pas, on a vraiment l'impression d'être dans un hélicoptère. Quand on voit tout Paris d'en haut, c'est extraordinaire. Ouais, non, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ils sont hyper gentils, les gens qui s'occupent de l'accueil, etc. Il y avait beaucoup de monde et ils sont extrêmement attentionnés avec tous les visiteurs. J'ai trouvé, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé à la Tour Eiffel depuis qu'ils avaient tout refait. Oui. Maintenant, il y a des entrées, c'est beaucoup plus organisé. C'est vachement bien, mais il y a tellement de monde que maintenant, il faut réserver un mois à l'avance.
Et oui, bon, ça fait un moment que ça dure. C'est comme ça. Et pareil dans les musées. Hein, vous savez que les grandes expos au Louvre, là, qui
c'est
sont
complet,
en cours,
oui. Les gens ne peuvent pas aller au Louvre. Ouais. Il paraît que c'est complet sur deux mois, là. C'est terrible.
Ouais. Et alors, à quoi ressemblent les vacances de Christophe Beaugrand? C'est plutôt sac à dos et gîte ou plutôt hôtel boutique et transat? Faites attention parce que vous en mettez quand même quelques-unes sur Instagram,
oui,
donc j'irai vérifier.
On a des dossiers.
Effectivement, il y a des dossiers. Non, alors, je n'aime pas les hôtels. Moi, je préfère louer des endroits parce que je trouve qu'un hôtel, on n'est pas chez soi, ma brave dame. Oui. On est moins tranquille.
Donc, location d'appart.
Voilà, location d'appart ou de maison. Là, en l'occurrence, j'étais chez des amis dans le sud. Là, comme je travaille.
C'est bien aussi squatter chez les
c'est
autres.
Ça, oui, c'est chez les autres, c'est pas mal.
Bons amis.
Oui, c'est ça, il faut choisir ses amis. C'est un talent. Mais là, c'est vrai que je travaille cet été, donc j'ai fait des sauts de puce de 3-4 jours. Donc je vais squatter plutôt chez des amis en ce moment cet été.
C'est pas mal.
Et j'en
formule.
Profite. J'étais dans le sud, là, il faisait très, très, très beau. Donc c'était pas mal. Donc c'est beaucoup piscine. Et après, surtout resto et boire des coups avec ma grande copine Modération, qui est très sympa.
Elle est très sympa.
Elle est très cool, cette Modération.
Elle prend soin de nous, c'est incroyable.
Un peu chiante des fois, mais enfin. Non,
mais Eva vous donnera tout à l'heure l'adresse où elle descend en Corse, comme ça, si vous voulez faire.
Ah oui, je suis jamais allé en Corse.
C'est sympa. Dites aussi aux auditeurs où je vais exactement. Bon, allez,
ah oui,
avant de partir.
Est-ce qu'on vous fait du nudisme?
Écoutez-moi, avant de partir vers le bassin d'Arcachon, je vous propose une parenthèse musicale avec le groupe Weezer et son titre addictif Highland in the Sun.
9h-11h, le club de l'été sur Europa.
To
date déjà de 2001. Island in the Sun par le groupe Weezer sur Europe 1. Et départ pour le bassin d'Arcachon dans quelques secondes.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et il est 10h23 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club. On attend vos messages et vos questions jusqu'à 11h sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et notre invité du jour est le journaliste et animateur Christophe Beaugrand. Est-ce que vous repartez régulièrement dans la région du bassin d'Arcachon?
Ah oui, quasiment tous les ans. Là, je ne suis pas encore allé cette année. J'y étais il y a quelques semaines. Dès que je peux, oui, je vais faire un tour sur mes terres.
Sur vos terres.
J'ai encore ma famille là-bas, donc je vais voir les cousins, tout ça. Voilà.
Bon, Élise, sur les terres de Christophe Beaugrand, il y a quel site qu'il faut absolument aller visiter?
Ah bah alors, à Gujan-Mestras, donc on n'est pas très loin d'Arcachon.
Mais j'ai de la famille à Gujan.
Et bah, il faut y aller. Il y a un musée de l'huître, je ne sais pas
ça,
si vous connaissez, Christophe,
non.
Qui, comme son nom l'indique, eh bien, est un musée consacré aux huîtres, leur culture et les variétés différentes que l'on peut croiser dans le bassin. Nous sommes en ligne avec Anne-Sophie, qui est responsable de ce musée. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous ce qu'on peut voir dans votre musée.
Alors, dans notre musée, on explique en fait comment on élève les huîtres ici sur le bassin d'Arcachon. Donc, il faut compter une heure de visite qui se décompose en trois parties. Donc, on commence à regarder un film sur l'ostréiculture. Donc, c'est un nouveau film que nous projetons cette année. Les ostréiculteurs ont été filmés sur toute l'année 2018 pour justement bien voir les différentes étapes de la culture de l'huître.
Donc, on voit tout le processus, tout leur travail.
Exactement, depuis la reproduction, hein, depuis la ponte des larves qui se déroule en ce moment, hein, les huîtres elles sont en train de pondre en ce moment, jusqu'à la commercialisation des huîtres. Voilà.
Alors et ça, c'est pour la première partie, oui. Ça, c'est ça, hein.
Voilà,
d'accord.
Tout à fait, c'est la première partie. Et puis ensuite, il y a un guide qui prend en charge les visiteurs et pour leur faire une petite visite guidée dans les différentes salles du musée. Donc, on va parler des techniques d'élevage, des différentes espèces, de la reproduction, etc.
Alors, il y a une salle du savoir-faire, il y a aussi une salle des os. C'est quoi? C'est reproduit en miniature, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, dans la salle du savoir-faire, on retrouve un petit peu tous les outils utilisés par les ostréiculteurs. Donc, on va retrouver la tulle cholet, hein, qui est le collecteur emblématique du bassin d'Arcachon. C'est sur ces tulles cholet que vont se déposer les larves pendant l'été. On a les chantiers. Vous savez ce qu'on appelle un chantier? Ce sont les tables métalliques qui vont supporter les poches où l'on dépose les huîtres en pleine mer, hein, pour les élever. Enfin voilà, on voit beaucoup d'objets, d'outils comme ça. La salle des eaux dont vous me parliez à l'instant, eh bien, c'est plus, on va expliquer le travail à terre, hein. L'ostréiculteur, il va en mer effectivement à marée basse pour travailler ses poches, mais à marée haute, il a son travail à la cabane. On appelle ça le travail à la cabane, où il va séparer les huîtres les unes des autres, il va dédoubler les poches, procéder au calibrage, à l'empaquetage, etc.
Alors, question fondamentale, mais est-ce qu'on peut en manger?
Bien sûr qu'on peut en manger, vous êtes vivement conseillé.
Oui. Oui, bon, c'est bien gentil tout ça, mais à un moment, ça doit donner envie. Hein.
Exactement. Alors nous, à la Maison de l'Huître, si vous voulez, nous ne sommes pas nous-mêmes producteurs. On est juste là pour expliquer l'élevage. Mais nous nous trouvons sur un port ostréicole, à Gujan-Mestras, sur le port de Larosse, où justement il y a un certain nombre d'ostréiculteurs qui se trouvent là pour la vente à emporter, la vente au détail, les cabanes de dégustation. Donc on invite nos visiteurs à justement se rendre après la visite dans ces cabanes pour aller déguster.
Olivier est content, il est content, Olivier. Oui.
Moi je devrais avoir honte, je suis du bassin, mais je n'aime pas les huîtres.
Ça arrive. Hein.
Ça peut se comprendre.
Je mange les petites crépinettes, les petites saucisses qui vont avec, souvent, qui sont servies avec. Ça, c'est très bon. Et du coup, je laisse les huîtres à mes camarades qui en mangent. Et du coup, moi, je mange les saucisses.
Voilà, comme quoi.
On peut s'arranger.
Voilà.
C'est toujours une histoire de partage. Et Anne-Sophie, on peut y aller avec les enfants dans le musée?
Bien entendu, c'est même conseillé. Si vous voulez, on essaie d'avoir vraiment adapter nos visites à tout public, surtout à cette époque-là de l'année. On a vraiment que des familles en visite au musée, donc c'est pas un cours magistral sur l'huître. Hein. On essaie de faire participer un maximum nos visiteurs et justement les enfants. Et les enfants sont invités à venir récupérer à l'accueil, à l'entrée du musée, un petit livret découverte. Comme ça, ils restent actifs pendant la visite, remplissent le livret, très viennent poser idée. Des questions. Donc, c'est vraiment très sympa.
Oui, il y a un espace découverte qui leur est dédié, un espace ludique. Merci beaucoup, Anne-Sophie.
Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la responsable de ce musée de l'huître qui est à découvrir à Gujan-Mestras.
Je vais en prendre une douzaine.
Vous allez en prendre une douzaine.
Gujan-Mestras.
Mestras. Ah oui, prononcez les S.
On prononce les S. Gujan-Mestras, oui. S'il vous plaît, Madame Europe.
Voilà. Toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Lise, vous nous postez ça sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier Pouls, c'est Vive le sucré ce matin. Ça sera dans
un
instant.
De l'huître à la dune.
Et de l'huître à la dune. Exactement. Rendez-vous dans quelques minutes, toujours en direct sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, et Christophe Beaugrand. Question quasi rituelle dans le club de l'été, Christophe Beaugrand, est-ce que vous êtes du genre gourmand ?
Oui, totalement.
Totalement.
Ah oui, j'assume, j'adore.
Et votre Madeleine de Proust ?
Ah, oh, j'en ai plein. Hein, mais j'avoue, j'ai une vraie Madeleine de Proust. Ce sont les tomates farcies, mais de ma grand-mère.
Ah, mais c'est toujours de la grand-mère ou de la mère.
J'ai
une
passion pour les tomates farcies. Dès que je venais la voir, elle me préparait le premier repas. Toujours, elle préparait les tomates farcies. Je prenais légèrement le train dans le matin. J'arrivais vers midi et demi, 13h. Et ça sentait toujours la bonne odeur des tomates farcies qu'elle avait mis au four, qui était en train de griller. J'adore
et
ça.
On peut pas les refaire et en plus les plats de grand-mère.
Non, ma mère a essayé, mais c'est pas du niveau de mamie Janine. Voilà.
On embrasse la maman de Christophe Beaugrand. Olivier, qu'en est-il dans le bassin d'Arcachon côté gastronomie aujourd'hui ?
Alors, est-ce que vous avez un peu faim ?
Oui.
Alors bon, on a compris qu'on n'aurait aucune chance avec les huîtres et Christophe. Donc, je me suis tourné vers du sucré et une spécialité qui a une histoire assez amusante. Est-ce que vous avez entendu parler des fameuses dunes du bassin ? Vous savez, il y a la dune du Pilat, évidemment.
Alors, je les connais et j'en ai mangé déjà. Ce qu'il faut, c'est qu'on peut les manger en regardant la dune, puisque c'est du évidemment. Côté du Cap Ferret qu'on les trouve.
Alors, nous a rejoint dans ce studio Olivier Cottenay. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, oui. Olivier.
Alors, vous êtes le représentant parisien, et j'ai envie de dire, de la fameuse dune c'est du bassin d'Arcachon. Bon. Racontez-nous l'histoire de cette petite pâtisserie.
Alors, en fait, c'est mon... Ben, bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue. Merci. C'est mon beau-frère Pascal qui a une boulangerie, pâtisserie au Cap Ferret, dans le petit village de Grand-Piquet. Et il y a une douzaine d'années, en fait, il a créé la Dune Blanche. Enfin, il l'a créée. L'histoire
est un peu cocasse, je crois.
Oui, enfin, il y a une petite anecdote. C'est simplement son fils qui est rentré de boîte de nuit. À 5h du matin, et Pascal était déjà derrière les fourneaux, et il sortait un four de chouquette. Et c'est son fils qui avait donc très faim, affamé, venait chaparder cette crème qu'il faisait pour un autre dessert dont il a le secret, et l'associait à une chouquette, un chou.
C'est une espèce de chantilly, c'est ça ça ressemble un peu.
Je crois que c'est ça.
Je crois que même sous la torture, on n'arrivera pas à savoir exactement ce qu'il y a dedans.
Ça ressemble un peu à une chantilly.
Mais ça ressemble à quoi ?
Mais c'est des choux fourrés, c'est très très bon.
C'est exactement ça, c'est le secret de la maison, mais c'est une base chantilly.
Mais pas que, c'est ça. Mais c'est très bon. C'est des choux fourrés donc une crème genre chantilly, mais pas tout à fait.
Voilà, le but, c'est que c'est très léger, ce qui a fait certainement le succès de ce dessert.
On peut manger
léger, pas trop sucré, et voilà.
Donc, c'est vrai que c'est né là-bas, mais l'histoire est extraordinaire. D'abord, ça a rencontré un succès immédiat et phénoménal. Il y avait une queue incroyable devant la boulangerie pour aller en chercher tous les matins.
Oui, c'est ça. En fait, donc son fils qui a associé les deux lui a dit « Ah, mais c'est trop bon, tu devrais en faire un dessert ». Donc, plus pour lui faire plaisir, le matin, il en a fait une quarantaine, je crois. Et elles sont toutes parties. Donc le lendemain, il en a fait le double.
Et alors du coup, c'était il y a combien de temps alors ?
Il y a 12 ans.
Ah, c'est marrant parce que moi, j'ai loué une villa de vacances au Grand Piquet il y a quelques années, mais c'était il y a un moment, et on allait tout le temps à cette boulangerie, et j'ai découvert ce dessert à ce moment-là. Donc c'était peut-être au tout début, sans le savoir, qu'on est tombé sur un... Je pensais pas que ça allait devenir... Je pensais que ça existait depuis très longtemps,
mais
c'est
marrant. Mais le succès est tellement fulgurant que vous arrivez à Paris, c'est ça ?
Mais oui,
c'est génial. Ça.
C'est pour ça que j'ai pu vous en amener.
Puisque
première fournée ce matin.
Faites-nous goûter parce qu'arrêtez d'en parler. On veut goûter.
C'est terrible pour les auditeurs ce qu'on est en train de faire.
On a créé une boutique en début d'année, donc c'est tout récent. On a osé faire le grand pas. On a mis 12 ans à oser sortir du bassin,
du
Cap Ferret, puisqu'on a aussi une boutique à Arcachon et à Bordeaux. Sur le même principe où on fabrique toute la journée au fur et à mesure.
Mais vous faites que ça dans la boutique à Paris ou d'autres choses ? D'accord.
On fait c'est que ça.
C'est mon produit. Mais vous les aromatisez ?
Alors, on fait des séries limitées, des éphémères le week-end à partir du vendredi, samedi, dimanche.
Et je vous en ai même amené une. C'est,
bon, montrez-nous.
Cette alors, semaine,
montrez-nous.
C'est quoi?
Oui.
Alors, cette semaine, en fait, c'est toujours le Sud-Ouest, hein, puisqu'on a, on a travaillé avec Mouton Cadet. on a donc travaillé avec Mouton Cadet, ces œnologues, pour mettre en valeur leur trilogie. Donc, on a créé trois dunes pour associer à leur blanc, rosé et rouge, qui est Yuzu pour le blanc,
oh là là.
Groseille pour
le
rosé, et cerise noire. Et c'est ce week-end que l'on fait cerise noire, piment d'Espelette pour le rouge.
Oh là là.
C'est un peu dans l'idée du macaron, c'est-à-dire qu'après on peut décliner évidemment à l'infini, on part d'une base commune.
On va vous faire des photos qu'on va vous poster évidemment sur Twitter avec le hashtag Europe 1. C'est absolument magnifique, c'est très très beau, c'est des petits choux, mais ils sont très esthétiques en fait.
Et c'est une belle, c'est une belle histoire, une réussite comme ça, d'avoir créé
locale,
un produit et qui aujourd'hui est en train
aussi.
De
et très familial aussi.
Non, mais c'est rare de créer un dessert aujourd'hui. On a l'impression que tout existe. Oui, oui. C'est assez rare.
Oui, et puis bon, il y a eu l'histoire du macaron et que notamment Pierre Hermé qui s'est réapproprié en quelque sorte ce dessert qui existait depuis très longtemps, en le déclinant de manière infinie. Mais là aussi, vous avez un terrain de jeu absolument.
Merci.
Illimité.
Mais merci Olivier, on va goûter tout ça avec vous pendant qu'on
ça
goûte.
Oui.
Olivier, vous allez continuer quand même à bosser un tout petit peu parce que l'heure elle est venue aussi de répondre à votre dernier vrai faux de la saison. On dit souvent qu'il faut carafer le vin rouge. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et pas les autres? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait?
On parlait justement de vin à l'instant, de blanc, de rosé et de rouge. Quel est l'intérêt de carafer un vin finalement? C'est il y a deux fonctions. Soit c'est ce qu'on appelle l'aérer, parce que les vins jeunes notamment ont besoin d'air pour exprimer leur bouquet. Donc dans ce cas, on prend une grande carafe bien évasée et on carafe le vin 1, 2, 3 heures à l'avance. Et vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Avec le temps, le vin va se complexifier et vous allez vraiment pouvoir en profiter en respectant toujours la température, surtout en ce moment qui fait un petit peu chaud. On peut également carafer les jeunes vins blancs. Vous allez voir, là aussi, ça marche très bien.
Ah bon?
Eh oui, eh oui. Alors, peut-être un petit peu moins longtemps à l'avance, mais là aussi, ça va, quand ils sont jeunes, aider à révéler les bouquets. Et en revanche, quand les vins sont beaucoup plus vieux, c'est la fonction du carafage, c'est la décantation, c'est-à-dire séparer la partie liquide du dépôt qui peut s'être constitué un petit peu dans le fond de la bouteille. Alors là, on le fait à la dernière minute et on le fait de manière très délicate, justement, pour éviter de remuer, de faire en sorte que ces dépôts ne reviennent en suspension dans le liquide. Je conseille même d'essayer de carafer le champagne.
Ah oui.
Ça peut être très intéressant. Là aussi, dernière minute, parce qu'il va perdre un tout petit peu de bulles. Mais
bulle,
ce qu'il va perdre en bulles,
il reste frais.
Il va... Ah oui, bien sûr, mais vous pouvez remettre votre carafe au frigo s'il est assez grand. Mais il va perdre en bulles ce qu'il va gagner en arôme et en complexité.
Ah, c'est intéressant.
Et vraiment,
ça.
Le carafage, c'est l'ami des vins. Le rosé, c'est peut-être un peu moins indispensable, sauf si vous avez des vrais rosés de gastronomie, de Bandol, de Tavel.
Mais le rosé au bord de la piscine merguez, celui-là, c'est pas la peine.
Non, c'est pas la peine de salir une carafe.
Il faut surtout pas le boire, oui.
Après, il faut les nettoyer.
Il faut boire autre chose. Olivier, vous restez avec nous
avec
on va faire la dégustation.
On
ne le
relâche pas tant qu'on n'a pas mangé les dunes.
Oui, voilà. Pour l'instant, on n'a rien mangé. Hein.
Alors,
le studio est verrouillé.
On reste avec vous et puis on va découvrir aussi la surprise d'Olivier Pouls. Mais avant, on sera parti aussi à la découverte de trois nouvelles destinations avec Ispressac en guise de guide. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été. 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec mes amis.
On est en train de manger, c'est délicieux.
Vous entendez les voix de Christophe Beaugrand et d'Olivier Pouls qui sont en train de goûter les dunes dont nous venons de parler. Olivier est resté avec nous, Olivier Cotenet.
Une seule fois en bouche. Hein.
Ah oui, en une seule fois. Même.
C'est très bon.
Ah oui. C'est très très bon, c'est léger, vous n'en aurez plus.
Excusez-nous,
hein.
On va continuer à travailler avec Lise.
Et puis on travaille, ça fait partie du boulot, non?
Donc vous avez compris qu'on était en compagnie de Christophe Beaugrand, que vous retrouverez ce soir pour la finale de Ninja Warrior sur TF1 à 21h et dès demain matin pour 2h d'infos sur LCI de 10h à midi, s'il a bien digéré. Et c'est comme ça tous les samedis et tous les dimanches.
Exactement, 10h à midi, ça va faire du bruit, ça s'appelle.
Et vous me disiez aussi que vous allez présenter le Grand Bêtisier avec Karine Ferry. Hein,
oui, ça passe samedi prochain, samedi 10 août, avec Karine Ferry, avec plein d'invités. On aura notamment la bande à Fifi en invité qui met de l'ambiance. On est sur, c'est magnifique, on est sur une croisière sur la Seine, sur une péniche.
Ah, c'est sympa aussi.
On a tourné ça à la fin du mois de juin, il faisait un temps magnifique, donc on a une impression d'été.
Mais formidable. Vous n'aviez pas des petites dunes à manger.
Et non,
voilà. Vous entamez votre deuxième là. On va vous laisser 2 secondes avec
et
Lise.
Moi je
nous
en laisserai pas.
Voilà.
On
a bien compris. Lise, on va aller visiter 3 destinations autour d'une même thématique. Oui. On part à la découverte ce matin de 3 panoramas exceptionnels et évidemment on commence par la Corse.
Mais sur les falaises de Bonifacio situées au sud de l'île, elles surprennent.
surplombent la mer Méditerranée. Elles offrent un panorama incroyable. On peut même apercevoir la Sardaigne. Et ce qui est sublime, c'est que ces maisons du village sont construites au bord de la falaise et se confondent presque avec les pierres de ces falaises de calcaire. Vous pouvez y faire de nombreuses balades face à la mer, au cœur du maquis corse. Et on peut aussi admirer ces falaises depuis la mer. Il y a de nombreuses balades organisées en bateau au départ du port de Bonifacio. Des excursions d'une heure commentées pour tout savoir des falaises, de la citadelle perchée dans le vide et de la grotte à ciel ouvert, avec des départs l'été toutes les 30 minutes. Les falaises de Bonifacio qui font partie du domaine du Conservatoire du Littoral qui se prolonge à l'ouest avec le site de Testa, de Ventilaigne à Figari et bien au-delà jusqu'à Propriano, le long d'un littoral naturel protégé.
Et on vous le recommande vraiment. Alors changement de décor, tout à fait. Là, on part maintenant pour les Pyrénées.
Pour découvrir le cirque de Gavarnie, c'est un cirque naturel de type glaciaire de 6 km de circonférence. Il fait partie du parc national des Pyrénées inscrit en 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors entre verdure et roche, le cirque garantit l'un des plus beaux paysages et des plus beaux panoramas de cette région. Une vue à 360 degrés sur les montagnes, les cascades et de la verdure. Des balades et des randonnées sont proposées par des guides pour explorer ce site. Et c'est un site qui a suscité l'étonnement depuis toujours. De nombreux botanistes, des scientifiques, mais aussi des peintres et des écrivains s'y sont rendus. Victor Hugo l'évoque d'ailleurs dans son poème Dieu. C'est une montagne et une muraille tout à la fois. C'est l'édifice le plus mystérieux des architectes. C'est le Colosseum de la nature. C'est Gavarnie. Et en plus d'offrir un sublime panorama, le site abrite une grande cascade de 400 mètres, la plus haute chute d'Europe. L'accès se fait depuis le village de Gavarnie, qui est situé à 1383 mètres d'altitude dans les Hautes-Pyrénées.
Alors, si vous entendez du bruit dans le studio, c'est Olivier Pousse qui se met à cuisiner. Je ne sais pas ce qu'il prépare parce que c'est une surprise.
Une petite surprise.
Il y a l'air
d'y avoir du foie gras.
Non, je crois pas. Et pendant ce temps-là, Christophe Beaugrand, vous avez arrêté de manger ou vous continuez à manger des dunes?
Non, j'ai arrêté parce que je veux vous en laisser quand même.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Lise, il n'y a pas que la mer ou la montagne où on peut trouver de beaux panoramas. Mais on peut aussi en trouver en ville.
Je vous emmène à Fourvière, très célèbre quartier de Lyon qui surplombe la ville. C'est ici que les Romains fondent Lugdunum. Le parvis de la basilique Notre-Dame de Fourvière est l'endroit où se dressait le vieux forum de la cité, Forum Vetus en latin, qui donna progressivement le nom de Fourvière à ce quartier. Fourvière qui est souvent surnommée la colline qui prie de par ses nombreux bâtiments religieux, dont sa basilique. Vous pouvez couper le micro aussi.
Elle essaye de bosser en entendant les assiettes d'Olivier Pouls.
Mais je travaille.
Bon, en tout cas, Fourvière, c'est magnifique. Il y a un panorama sur la ville extraordinaire de là-haut.
Exactement, la colline est accessible à pied pour les plus courageux qui pourront partir du quartier de Saint-Jean, le Vieux Lyon. Et pour les autres, il y a un des deux funiculaires de la ville qui permet d'arriver directement devant la basilique sans trop d'efforts depuis l'arrêt de métro Vieux Lyon.
Et alors, une fois qu'on est à Lyon et qu'on veut visiter autre chose que Fourvière, vous nous proposez même une application.
Mais oui, elle s'appelle DestiCity. Ça permet de profiter d'audio guide culturel à écouter devant plus de 1500 monuments de 150 villes.
C'est une très bonne idée, ça.
Vous arrêtez devant le monument et vous avez l'explication. Donc c'est possible à Lyon, à Paris, à Nice, à Agen, Strasbourg, Marseille, mais aussi à l'étranger, à Rome, à Londres, à Venise, à Barcelone et à New York. Les audioguides de DestiCity vous donneront des infos sur l'histoire, l'architecture et des anecdotes culturelles aussi sur chacun des monuments.
Il y a une scène à ma gauche, Lise Pressa.
Oui, non, mais je ne lève même plus les yeux, moi.
Parce que Olivier est en train de faire des tapas, en fait.
Je ne sais pas, il fait des trucs.
Il vous en a proposé un et vous avez refusé.
Peut-être j'ai refusé parce que je pensais que vous alliez me poser une question derrière. Sinon, j'aurais mangé.
J'allais vous dire, vous choisissez quel panorama, mais comme vous n'avez pas écouté la chronique de Lise.
Mais si, j'ai écouté. Ah, bon. Moi, je retournerai avec plaisir à Fourvière. Mon mari est originaire du coin. Il m'a fait découvrir Lyon, qui est une ville que je ne connaissais pas il y a quelques années. Et c'est une ville magnifique.
On est bien d'accord. Est-ce que vous aimez voyager?
Oui, j'aime bien. Je voyage souvent pour le boulot. Mais,
oui, alors en dehors du boulot,
mais j'ai eu la chance d'aller dans plein d'endroits pour le boulot. Mais effectivement, j'adore voyager. Je suis allé au Mexique l'année dernière. Un voyage que j'ai adoré. J'adorais y retourner. Il y a encore plein de pays que j'aurais envie de visiter. Ouais.
Et c'est plutôt sac à dos ou vous faites un peu plaisir avec des circuits
Je prends jamais les circuits, les trucs tout fait, etc. Non, moi j'aime bien faire des sauts de puce, donc aller d'un endroit à un autre. Donc quand j'étais au Mexique, on avait fait les premiers jours en changeant d'hôtel tous les jours, des hôtels un peu paumés, et on s'était fait 3 jours dans un hôtel super chouette du côté de Tulum, du côté des plages. Un peu plus glam, mais on avait fait surtout les 10 premiers jours du séjour, c'était surtout de la visite avec des petits hôtels, parfois un peu pourris, mais le principal c'est d'être au cœur des lieux, quoi, voilà, pour visiter.
Toutes les références dont on a parlé depuis ce matin, que ce soit les références culturelles ou gastronomiques ou patrimoniales, bien évidemment, vous les retrouvez sur le site europe1.fr. On vous remercie beaucoup pour toutes les cartes postales que vous nous avez envoyées et vous pouvez continuer à en envoyer, bien évidemment, à Lise qui se fera un plaisir de les relayer. On en a reçu une très, très sympa de Claire. Je ne résiste pas à l'idée de vous la lire. Amical bonjour d'Espagne, où je vous écoute tous les jours sur la plage en podcast. Et oui, à 9h en Espagne, on dort encore.
Oui, vous avez raison.
Et elle nous dit, sur mon petit carnet, je note des titres de pièces pièces, de films, de séries, de chansons. Vous êtes de très bons prescripteurs de culture et gastronomie, mais merci beaucoup parce que c'est, je pense que c'est les mots qui nous font le plus plaisir parce qu'on a conçu cette émission aussi pour tout ça. Christophe Beaugrand, dans quelques secondes, continuez à manger, vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions. Ce sera la dernière séquence de cette émission avec Olivier Pouls. Ne dites pas ce que c'est. Ne dites pas ce que c'est. Voilà. Notre dernière émission après une saison riche et pleine de souvenirs, ça tombe bien. Trois cafés gourmands débarquent avec À nos souvenirs sur Europe 1.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle?
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin. Et on a du chagrin, on se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un ce soir.
J'ai le cœur qui pétille,
Mimi sert nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Difficile de ne pas se souvenir de ce titre des Trois Cafés Gourmands sur Europe 1. A tout de suite pour la DER.
On prend le temps, on se détend.
Avec le Club de l'été sur Europe 1.
Ce numéro du Club de l'été s'apprête à refermer ses portes. Christophe Beaugrand, je ne connais pas la suite de l'émission. Olivier Pouls n'a rien voulu me dire. Alors c'est à vous, Olivier. Qu'est-ce que vous voulez?
Ça veut dire qu'il reste 10 minutes ou vous ne savez pas ce qui va se passer?
Non, si, je sais pas.
Sans filet.
Elle prépare même pas son émission, en fait.
Voilà. Ça, c'est mon genre.
Oh, je l'ai vexé, là.
Ah oui, alors là, vous m'avez vexé. Je peux dire que les dunes blanches, c'est très très bon. Hein.
C'est excellent.
J'en ai mangé deux.
C'est très bon.
Merci Olivier, c'est délicieux. Vraiment, vraiment.
Avec plaisir.
Merci. Alors Olivier, qu'est-ce que vous avez préparé?
Eh bien, je me suis mis un peu en cuisine hier soir et j'avais effectivement annoncé à Eva qu'il y aurait une petite surprise pour cette dernière, en ce qui nous concerne en tout cas. On a parlé de plein de produits tout au long de ce mois. On a parlé de sardines, on a parlé d'aubergines, on a parlé de poivrons. Eh bien, je me suis dit que j'allais les réunir tous les trois.
Vous avez fait le combo des ingrédients qu'on a évoqués.
Je ne veux pas du tout des aubergines là-dedans.
Vous allez comprendre. Moi, c'est que j'ai compris là.
Donc, je suis parti sur la base d'un caviar d'aubergines que Eva avait réalisé il y a...
Avec brio cette semaine.
Donc, tout simplement, les aubergines cuites au four.
Oui.
Je suis parti ensuite...
Vous en avez refait, hein. C'est pas le mien.
Bien sûr, j'en ai refait un hier soir.
Sinon, on va être tous malades.
Je suis parti aussi sur votre idée des poivrons confits que vous nous aviez fait il y a deux jours, qui étaient délicieux aussi. Donc, j'ai refait des poivrons confits. J'ai mélangé les deux. Donc, j'ai fait un caviar poivron-aubergine.
C'est très bonne idée.
Avec un peu de citron. Un petit peu de coriandre, c'est mon péché mignon.
Alors, comment vous faites? Parce que là, je le vois, il est hyper fluide. Moi, mon caviar d'aubergine, il est un peu moins. Vous mettez un peu de crème avec ou vous mettez quoi dedans?
Non. Il y a de l'aubergine, donc de la chair d'aubergine. L'aubergine à cuite entière au four, tout simplement.
Pour la ramollir,
sous le grill. Et puis, il faut qu'elle soit vraiment bien cuite. Ça dure 45 minutes à peu près. Ensuite, à côté de mes aubergines, j'avais mis des poivrons. Donc là aussi, ils sont bien confits.
Vous avez enlevé la peau.
J'ai enlevé la peau des voilà, et j'ai mixé le tout avec un jus de citron.
Juste ça, d'accord.
Voilà, quelques épices. Je rajoute un peu de piment d'Espelette pour donner un peu de peps, et j'ai rajouté de la coriandre. Ça, ça nous fait la base.
D'accord.
On la tartine sur des petits morceaux de pain grillé. Et ensuite, je suis venu poser un morceau de sardine par-dessus. Et vous allez voir que l'association poivron, sardine, piment d'Espelette, le croquant, ben, je vais
Olivier,
le faire
passer, vous êtes obligé de goûter aussi parce que...
J'espère que vous allez manger.
Oui, parce que... oui, quand même.
Alors, je suis désolé parce qu'on ne l'a pas tout à fait fait dans le bon sens. On a commencé par les dunes. Et ensuite, le retour à la sardine peut paraître un tout petit peu brutal, mais ça se passe finalement très très bien. Et on avait une idée dont on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas eu le temps, et là aussi je vous donne cette petite idée de tapas si vous ne savez pas quoi faire pour l'apéro ce soir. C'est en partant de nos poivrons, j'avais rajouté dessus
un tout petit peu
de melon et du jambon fumé, et là aussi on a un trio qui marche
assez facile à faire en plus, il n'y a pas grand chose à faire. Mais c'est juste la durée en fait, c'est la durée de la cuisson de l'aubergine qui fait la différence, il faut surtout
qu'elle soit vraiment bien cuite à l'intérieur pour que la chair, après on écrase à la fourchette, on mixe un petit peu si on a envie, mais même à la fourchette ça marche.
Mais écoutez, alors on va goûter ça, pendant que vous goûtez, je vais en profiter pour remercier encore une fois Olivier Cotenet d'être passé ce matin nous voir en studio avec ces dunes qui sont extrêmement bonnes, qu'on retrouve évidemment dans le bassin d'Arcachon, au Cap Ferret, à Bordeaux, vous nous disiez, et à Arcachon. Et puis on les retrouve aussi à Paris, rue des Archives, maintenant c'est dans le 3e arrondissement. Merci infiniment d'être passé par ce studio, on va vous faire dégoûter. Le lapsus qui n'est absolument pas révélateur, parce que je suis sûre que c'est bon, vous allez déguster le plat d'Olivier Pouls. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ces 4 semaines passées en votre compagnie. Je vais commencer d'abord par remercier Christophe Beaugrand d'avoir été là pour cette dernière. Je suis très contente de vous avoir reçu, Christophe.
C'était un plaisir aussi de venir. Et bon, c'est votre dernière, mais vous revenez à la rentrée.
Mais je reviens à la rentrée. Mais surtout, le club de l'été se poursuit, mais jusqu'au 23 août. Lise Pressac sera là en direct tous les jours, 2 heures de direct, de 9h à 11h. Ça ne change pas. Christophe, on vous retrouve donc ce soir sur TF1 à 21h pour la finale de Ninja Warrior. Est-ce qu'une saison 5 est déjà en préparation?
Écoutez, on n'a pas encore la décision officielle n'a pas encore été annoncée par TF1, mais les scores d'audience sont excellents. Donc oui, il n'y a pas de raison. En tout cas, nous, on est prêts avec Denis Brognard, avec Iris Mittenaar. Après, ce sera à TF1 de décider. Mais en tout cas, visiblement, le public a envie de continuer à regarder cette émission et à la suivre parce qu'il y en a encore plus de monde que l'année dernière. Et puis ce soir, on croise les doigts pour la finale qui, vous allez le voir, s'annonce absolument spectaculaire. Vraiment, vous allez en prendre plein les yeux.
Et il a refusé de nous dire hors micro s'il y avait les 100 000 euros.
Je n'ai rien dit, même sous la torture, je ne dirai rien.
Alors, on vous retrouve, Christophe Beaugrand, aussi demain matin, de 10h à midi sur LCI pour Ça va faire du bruit. Vous remettrez ça dimanche et puis ça sera comme ça tous les week-ends du mois d'août.
Jusqu'à la fin août,
voilà. Et puis, vous serez à la rentrée dans l'équipe de la matinale menée par Pascal Latour-Dupin, toujours sur LCI, bien évidemment.
Exactement. Et puis, effectivement, le bêtisier de l'été, samedi prochain sur TF1, donc je suis bien occupée avec Karine Ferry, ma camarade.
Écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, Christophe. Merci beaucoup d'être passé par
ce
studio.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Les amis, lundi, donc je passe le relais à Lise Pressac. Vous serez très bien entourée, Lise, avec deux Sophie. Alors, Sophie Mazieux pour le tourisme et la culture, et puis Sophie Mons pour la gastronomie. C'est une de vos compatriotes, Olivier. Il faut toujours une ou un Belge dans une équipe.
Absolument, et j'en profite pour embrasser et souhaiter très, très, très bonne chance à Sophie Mons.
Ah oui, je ne l'ai pas bien prononcé. Mons, pardon.
Et néanmoins, amie belge, experte de la gastronomie, vous n'allez pas vous embêter, je vous le garantis.
Lise et Olivier, vraiment, je vous embrasse avec toute ma tendresse et mon affection. On s'envoie des cartes postales. Ce club de l'été n'existerait pas sans l'équipe composée de Julien, Elisa, Sabrina, Alexandre et Antoine. À la réalisation cette semaine, il y avait Loïc et Nicolas. Merci pour le travail fourni et la bonne humeur de ce mois de juillet. Merci à tous nos invités et puis à vous, auditeurs. Un immense merci pour vos commentaires, vos questions, vos encouragements, vos remarques et vos cartes postales. On prend un immense plaisir à concocter ce club pour vous. J'espère que notre joie est communicative. Lise, bon courage. Olivier, bonnes vacances. Olivier, on se retrouve à la rentrée. Ce sera le 26 août et avec Mathieu Noël, on prépare un nouveau rendez-vous. Franchement, on a déjà hâte de vous retrouver tous parce que je pense que ça va être sympa. Olivier, vous viendrez nous voir de temps en temps.
Ah, mais je viendrai même tous les jours si vous me le demandez.
Ah, peut-être, on va voir. Je vais réfléchir avant. Ouais.
Moi, je viendrai vous voir si vous m'invitez.
Mais bien sûr, on vous invitera.
Le mec qui se place carrément. Le relou.
On sera très heureux de vous accueillir. En attendant, je vous laisse en compagnie d'Anne Romanoff en vous souhaitant une très très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.